Bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour nous, membres et amis du Centre Sèvres, de recevoir ce soir Olivier Bounois ainsi que son épouse Marie-Odile, qui est une habituée de la maison, pour présenter son livre récemment paru, Saint Paul et la philosophie, une introduction à l'essence du christianisme. C'est aussi plus égoïstement une émotion pour moi qui ai eu la chance d'être votre élève et de vous avoir eu pour directeur de thèse. Votre ouvrage, cher Olivier, est l'occasion de réunir nos deux facultés de philosophie et de théologie et nous vous remercions pour cette aubaine. C'est presque de l'ordre du camp du drap d'or. Olivier Bounois, vous êtes directeur d'études à l'EPHE, l'école pratique des hautes études, spécialiste d'un SCOT. Vous êtes un connaisseur érudit de la philosophie médiévale dont vous savez ouvrir toutes les portes, celles des plus grands mais aussi celles de plus modestes auteurs. Ainsi êtes-vous un spécialiste de la béguine Marguerite Porrette, auteur du Miroir des âmes simples et anéanties, que vous avez contribué à faire sortir de l'oubli. Vous avez également écrit sur l'histoire de la métaphysique, vous rendant attentif aux concepts d'image, de volonté, de dominium et surtout de liberté. Car vos recherches, vos livres et votre enseignement nourrissent une méditation toujours reprise sur la liberté intellectuelle, humaine et chrétienne, comme le manifeste encore ce très beau Saint Paul et la philosophie. C'est un livre remarquable de clarté, mais aussi de beauté, beauté de l'écriture et beauté de l'intimité qui se révèle à la lecture de la pensée avec son objet. Marc Rastoin et Isabelle Bochet ont accepté avec enthousiasme de s'entretenir avec vous ce soir. Isabelle, vous êtes philosophe et spécialiste de Saint-Augustin. Vous êtes un pilier des études augustiniennes contemporaines. Chercheuse et enseignante infatigable, vous coordonnez de nombreux travaux fondamentaux pour l'histoire de la pensée augustinienne et de la patristique. Vous enseignez ici au Centre Sèvres et connaissez bien notre invité de ce soir. Marc, vous êtes théologien, bibliste, spécialiste de Saint Paul. Vous enseignez à Rome et au Centre Sèvres, aussi parfois dans des lieux plus aventureux comme le Pakistan. Car c'est peu dire que l'aventure ne vous déplaît pas. Vous êtes un passionné de la Bible et de la tradition juive. Votre passion est communicative. Le Paul de part en part juif et grec que présente Olivier Bounois ce soir ne pouvait que susciter votre intérêt. C'est donc vous que nous écouterons d'abord, puis Isabelle Bochet, et enfin nous laisserons la parole à notre invité pour conclure la soirée. Il y aura bien entendu un temps pour vos questions et des échanges avec la salle. Un grand merci à chacun.
Voilà, de fait, un livre marquant, je vais lire. Saint Paul a toujours fasciné les philosophes et même certains écrivains, si l'on se souvient il y a peu de temps du royaume d'Emmanuel Carrère. Et c'est parfaitement compréhensible et même légitime, même quand ils ne sont pas au fait des travaux récents des exégètes, pauliniens ou pas. En Europe, ces dernières décennies, Giorgio Agamben en Italie, Alain Badiou en France, Jacob Taubes dans les années 80, de regrettée mémoire en Allemagne, ou Slavoj Žižek, un peu partout, ont consacré un ouvrage à Paul de Tarse. Et on pourrait remonter jusqu'au 17e. Alors la petite différence, qui est une grande différence avec mon voisin, c'est que ce dernier a effectivement, lui, lu les travaux récents sur Paul, et qu'il ne s'appuie pas sur une recherche datée. Notamment ceux écrits sur dans le milieu, une des tendances majeures de la recherche depuis une trentaine d'années, qu'on appelle la « New Perspective on Paul », la nouvelle perspective sur Paul. Je note page 141 un paragraphe, une phrase qui montre qu'il intègre cette approche. La Torah ne s'applique pas aux nations, du moins pour ce qui touche aux interdits alimentaires et au marquage par la circoncision, c'est-à-dire les comportements qui impliquent une séparation ethnique, confère acte 15. Si l'on croit au Messie Jésus, aucune marque distinctive n'est nécessaire. En revanche, faire le bien, c'est-à-dire les œuvres de la loi, tous doivent l'accomplir. Alors je rejoins tout à fait ce propos, avec peut-être la petite nuance que je ne dirai pas ici « ta erga tu nomu », les œuvres de la loi, mais accomplir la loi à la façon du Messie, avec le jeu entre faire la loi et accomplir la loi. Une très belle formule aussi, page 145, la charité ne se dresse pas contre la Torah, elle la réalise. Bon, là où, voilà, les pères de l'Église diraient, elle l'accomplit. Donc cette scholarship qui se traduit dans les notes, qui ne sont pourtant pas très nombreuses, ce qui fait que le livre d'ailleurs se lit, une des raisons qui fait qu'il se lit aisément, c'est qu'il y a relativement peu de notes, mais elles sont très précises. Et donc moi personnellement, j'ai été un peu estomaqué de voir un philosophe qui, à ce point-là, avait maîtrisé les exégètes, à commencer par mon directeur de thèse, Jean-Noël Aletti, sur la question. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, je pourrais un peu parodier Henri VIII parlant à Thomas More dans A Man for All Seasons, si vous connaissez. Your taste in music is excellent, it coincides exactly with mine. Donc, j'ai trouvé le livre excellent, puisque ses idées coïncident exactement. Effectivement, ce serait une manière de procéder. Mais le livre échappe au piège dans lequel la lecture de Paul est trop souvent tombée. Le christianisme est bien un messianisme, confère page 16, et ne peut se comprendre hors du milieu juif où il naît. L'axe fondamental, l'approche fondamentale du livre me semble tout à fait en phase avec la lecture paulinienne, on va dire proposée et exemplaire en milieu francophone, donc évidemment Jean-Noël Aletti. Et ça m'a frappé que sur les chapitres 1, 5 et 7 de la lettre aux Romains, qui sont des chapitres particulièrement étudiés dans le livre, le propos rejoint tout à fait l'approche de Jean-Noël, hein, sur Adam et le Messie en Romains 5. Bon, Jean-Noël qui est d'ailleurs cité à l'occasion. Alors, là, je vais prendre un peu position. La lecture exégétiquement erronée de la lecture, la nature exégétiquement erronée de la lecture luthérienne, centrée sur une lecture autobiographique du jeu de Romains 7, 7-25, est à mon avis montrée de manière exemplaire. Olivier rappelle aussi sur ce point d'ailleurs, à la directeur de thèse, que ce sont des exégètes protestants eux-mêmes, notamment luthériens, comme Christer Stendhal ou Werner Kummel, qui ont eux-mêmes remis en cause ce paradigme, donc entre Werner Kummel 1929, Christer Stendhal 1964, qui allait donner naissance à la nouvelle perspective sur Paul. Alors quel est le point clé sur lequel, je vous l'avoue, je suis très très curieux de ce que va dire ma voisine pour défendre le soldat Augustin? Quel est le point clé? Eh bien, tant le deuxième Augustin, je vais parler un peu à l'ancienne, que Luther font un contresens sur le sens à donner à Romains 7, 7-25. Il ne s'agit pas ici, fondamentalement, du jeu du chrétien baptisé, mais du combat terrible, ou plutôt de la situation terrible du non-baptisé, mis en contraste avec la description positive de ce qu'est la nouvelle liberté acquise par le baptisé et qui est mise en valeur dans les chapitres 6. Mais cette lecture augustinienne, en particulier du dernier Augustin et luthérienne, ont dominé l'exégèse chrétienne depuis la Réforme et ont contribué notamment au regard très négatif qui a été porté sur le judaïsme, tant ancien que moderne. Je cite Olivier, le Paul de Heidegger, par exemple, est lu à travers Luther, Paul et Luther étant eux-mêmes lus à travers Adolf von Harnack. La façon dont Luther oppose Paul à Paul et un certain Paul au reste du Nouveau Testament est très bien dit. Au lieu de chercher à concilier Romains 1 avec 1 Corinthiens 1, Luther exacerbe leurs contradictions. On peut dire ça, c'est l'attitude fondamentale, je pense, de Luther par rapport à Thomas, c'est out, out, toujours ou bien Romain, ou bien Jacques, ou bien Romain 5, ou bien Romain 7, ou bien Corinthien, on est toujours dans des oppositions. Ou encore, si le Luther de Nietzsche ressemble tant à saint Paul, c'est parce qu'il voit dans Paul un autre Luther, page 119. Le combat principal de Paul, dit la nouvelle perspective, et là je la rejoins totalement avec, on va dire, la majorité des exégètes actuels, a été un combat pour l'unité de tous les baptisés, l'égale dignité de tous les baptisés, quelle que soit leur origine. Un combat fondamentalement ecclésiologique, théologico-ecclésiologique. Leurs adversaires vont décrire cette position comme sociologique, de manière péjorative, mais Paul défend l'unité dans l'Église. Son combat n'est pas un prétendu combat entre les œuvres et la grâce, mais un combat contre ceux qui voulaient obliger les chrétiens d'origine païenne à pratiquer les commandements rituels du judaïsme, qu'il appelle « ta erga tu nomu », les œuvres de la loi. Paul supposait naturellement que les commandements éthiques, notamment le décalogue, subsumés sous le résumé de Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ou négativement par le « Tu ne convoiteras pas », devaient bien sûr être pratiqués. Voilà. Donc inauguré par ces deux auteurs que j'ai cités, Kummel et Stendhal, et puis poursuivi par les travaux de Sanders et d'autres, la nouvelle perspective estime que Luther a commis plusieurs erreurs d'appréciation, plaquant sa conception du catholicisme du XVe siècle, qu'il refusait, sur la réalité religieuse juive du premier. Pour cette perspective, les œuvres de la loi, je simplifie, désignent, exclusivement ou principalement selon les auteurs, les commandements rituels, les commandements non éthiques qui séparent juifs et non-juifs, boundary markers. Et c'est vrai que ce concept de marqueur identitaire peut donner l'impression d'être une lecture uniquement sociologique, mais ce n'est pas le cas. Paul les refuse comme critère pour entrer dans l'Alliance et le monde de la foi via le baptême. Avant, comme après le baptême, aucune œuvre rituelle supplémentaire n'est nécessaire. La seule condition pour entrer dans le monde du Messie, c'est la foi. Ces œuvres peuvent être pratiquées par certains, mais elles sont indifférentes pour la justification et le salut. Pour rester dans l'Alliance, en revanche, et pour se préparer au jugement dernier, il faut bien vivre moralement et mettre notre foi dans des œuvres de justice que l'Esprit Saint permet et donne d'accomplir. Dans Galates, hein, la foi est énergumène, énergouménée par la charité. C'est la charité qui met en œuvre la foi. Comme le dit toute la Bible, c'est rappelé par Paul au début de Romains, nous serons bien sûr jugés sur les œuvres et Dieu attend des œuvres qu'en synergie avec nous, il nous aide à accomplir par son Esprit Saint. Dans la logique de Philippiens 2, hein, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc voilà un verset qui peut choquer un peu l'approche luthérienne classique. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Une approche qui remet l'accent sur la priorité de Dieu. Donc la bonne œuvre est-elle une œuvre qui vient entièrement de Dieu ? Oui. Est-ce que c'est également une œuvre du croyant ? Oui. Comme toujours, dans une approche de synergie catholique ou orthodoxe, on n'oppose pas liberté divine et liberté du croyant ou action de Dieu, action du croyant. Il me semble donc qu'il faut reconnaître avec la nouvelle perspective que Paul s'en prend essentiellement au commandement rituel qui sépare juifs et non-juifs. Cette théologie n'est présente que dans Romains et Galates parce que c'est sans ces deux lettres que Paul s'oppose à ses adversaires judéo-chrétiens qui insistent sur ce point. Alors, avec Jean-Noël Aletti, il faut aussi reconnaître néanmoins, et c'est peut-être le point de jonction avec en partie le premier Augustin et l'ancienne perspective luthérienne sur Paul, que la théologie paulinienne constitue bien une remise en cause radicale du mode de pensée religieux basé sur les commandements, sur la loi comme lieu privilégié du rapport d'obéissance à Dieu. C'est bien une révolution copernicienne que propose Paul, parce que les temps sont accomplis et que l'Esprit Saint a été répandu dans l'esprit de Jérémie 31 ou de Joël 3, jeunes gens et jeunes filles, voilà, juifs et grecs, et que désormais il s'agit de vivre sous l'action de l'Esprit Saint, de faire grâce à lui ce qui est juste, non pas comme accomplissement d'une liste de commandements, fût-ce celui d'aimer son prochain, ou fût-ce le décalogue, mais bien comme imitation du Messie et de sa vie. Ce que Luc traduira avec la parabole du bon samaritain. La vie selon la foi consiste à imiter le Messie, et finalement la foi que celui-ci a eue dans son Père. Donc c'est sur le fond d'une consonance profonde avec toute l'approche du livre, et je rejoins ce qu'a dit Camille sur le bonheur des expressions, la grande qualité de l'écriture, ça se lit vraiment très très bien, que je me permettrai donc quelques remarques et questions qui me sont venues à la lecture. La première, il me semble qu'il y a un acteur vraiment clé dans de Paul qui n'est peut-être pas assez présent dans le livre, ce qui est assez conforme à la tradition latine. J'ai mentionné les quelques pages où, à mon sens, il pourrait être mentionné. C'est l'Esprit Saint. Le christianisme naissant est un mouvement puissamment charismatique, où la conviction que l'Esprit Saint promis par les prophètes, et notamment par Joël, est au cœur de la vie de foi. C'est bien cet esprit qui permet d'accomplir la loi, non seulement de respecter ou de faire en partie tel ou tel commandement, tout comme il est celui qui permet d'être témoin de signes éclatants. Et Paul lui-même était un thaumaturge charismatique, comme il le dit clairement, discrètement mais fermement, en plusieurs endroits des lettres, notamment en Romains 15, 18-19. par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Je n'oserais dire de ce que le Christ a mis en œuvre par moi. Ou ce qu'il disait aux Galates quelques années avant, celui qui vous a fait don de l'Esprit et qui réalise des signes parmi vous. Donc, il me semble que dans certaines redécouvertes que nous cherchons à faire depuis le concile de cette deuxième main de Dieu, de l'Esprit-Saint, l'approche ici reste encore peut-être par moments un peu trop christocentrique. Deuxième point, plusieurs fois, Augustin, surtout l'Augustin de la lutte contre Pélage, est évoqué. Mais, c'était la question qui m'est venue, mais bon, je parle sous contrôle de ma voisine, ne conviendrait-il pas d'opposer un peu plus Augustin à Augustin ? Par exemple, dans la phrase page 31, Luther repose sur l'interprétation augustinienne de Paul. Ne conviendrait-il pas de dire l'interprétation du deuxième Augustin ? Quelle place donne-t-on aux rétractationnes et donc au changement d'avis radical que prend Augustin sur Romains 7 ? En fait, Augustin change d'avis et il le reconnaît d'ailleurs, ce qui est rare pour un auteur, à la fin de sa vie, il dit « j'avais tort quand j'étais jeune, j'ai raison maintenant ». Mais il se trouve que l'exégèse actuellement majoritaire donne raison plutôt au premier Augustin. Certes, l'expression « premier, deuxième Augustin » a sans doute ses défauts, comme pour Wittgenstein sans doute, mais elle a sa force. Elle permettrait en partie de sauver Augustin. Sinon, une note comme celle de la page 61, que je rejoins par ailleurs, accablerait Augustin. C'est Augustin, l'action de Dieu et l'action des hommes s'appellent et se répondent. Augustin qui rompt cet équilibre et bascule vers une théologie, une détermination par Dieu du salut de la perdition. Basculer du mauvais côté, côté obscur de la force. Ou la phrase page 121, Luther s'appuie sur la doctrine de la grâce selon Augustin, ou encore, il nous faut d'abord détruire l'interprétation d'Augustin. Sinon, on risque de faire d'Augustin un premier Luther, ce qui, comme catholique latin, nous poserait tout de même un problème. Ce que reconnaît tout de même la page 124, parlant du jeune Augustin, et 125, avant la polémique contre Pélage. Il me semble sur ce point que Eric Pchivara a de très belles pages là-dessus dans son Augustinus qui éclairerait ce point. 3. En deux endroits, la lecture, j'ai trouvé ça à la fois magnifique, audacieux et un peu risqué, privilégie une critique textuelle différente de Nestlé-Aland, page 85 sur Galates 6-9, page 122 sur Romains 7-18. Pourquoi pas, je ne pas expert de ces deux crooks d'interprétation, mais la lecture proposée par Olivier tient sans ces changements, ce qui est tout à fait heureux. Mais disons, il est allé jusqu'à proposer un état du texte différent. Alors, 4, on est de plus en plus conscient que le verset 7, Romains 7, 25b, est absolument capital dans le débat entre l'ancienne et la nouvelle lecture de Paul, et cela est reconnu par Olivier, page 127, 155. Il serait sans doute bon de souligner la tension que la lecture de la nouvelle perspective, essentiellement reprise par Olivier, a avec le verset de Galates 5, 17, où le combat spirituel traverse clairement le chrétien baptisé. Alors, pour ceux qui seraient un peu perdus, là, le verset 7, 25b est après l'action de grâce que fait Paul, après avoir décrit l'état du chrétien, l'état du non-baptisé dans le désespoir, hein. Malheureux homme que je suis, bon. Et donc, grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. On pourrait s'arrêter là, donc on aurait cette espèce de description de l'homme pécheur. Mais il continue, c'est donc bien moi qui par la raison serai une loi de Dieu et par la chair une loi de péché. Et donc là, qui parle ? Est-ce qu'on est encore dans le développement ? Est aussi soumis à ce dilemme, ce que Galates 5, 17, hein, la chair convoite contre l'esprit, l'esprit contre la chair, il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez, au fond reconnaît que le dilemme existe également dans la vie du baptisé. Alors il me semble qu'il devrait être possible de tenir qu'une forme de combat existe dans le chrétien, qui d'entre nous pourrait le nier, sans que cela porte atteinte à la pointe de la lecture de la nouvelle perspective, considérant que Romains 7, 7, 25 ne vise pas d'abord le baptisé, ce qui serait vraiment contradictoire avec les chapitres 6 et 8. Paul procède au fond par des applis forts, comme un peintre d'il y a un siècle. Il veut souligner à la fois la radicale liberté acquise par le chrétien, l'objet des chapitres 6 et 8, tout en reconnaissant volontiers dans les sections parénétiques, qui sont tout autant dogmatiques, je rejoins volontiers Olivier là-dessus, que du péché subsiste chez les chrétiens, et de la division intérieure également, tant cela appartient au fond à la condition humaine universelle. Donc la reprise du thème du « moi divisé » de Ripide, « le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais », qui est un thème très classique de la philosophie et de la pensée grecque, reste présent. 5. La question du destinataire de la lettre aux Romains mériterait peut-être d'être abordée plus nettement. Il est dit en passant, Paul s'adresse à la majorité des païens messianistes, c'est à vous païens que je parle. Il s'agit plutôt à mon sens d'une ruse rhétorique. Et selon ce que dit Romains 9:11, Paul s'adresse en réalité plus directement aux judéo-chrétiens de Jérusalem pour exposer pleinement sa pensée théologique avant de risquer sa vie en venant physiquement à Jérusalem. Je suis ici l'hypothèse de Günther Bornkamm, c'est-à-dire que Romains est fondamentalement une ambassade, une lettre ambassade qui arrivera à Jérusalem pendant la fermeture de la mer, hein, entre le 1er octobre et le 1er avril, entre 57 et 58. Paul ne peut pas se permettre d'écrire par quelle autorité à l'église de Jérusalem, mais utilise Rome, qui n'a été fondée par aucun apôtre, comme plateforme pour s'expliquer et se défendre sur son amour pour Israël, Romains 9 à 11, pour anticiper sa venue avec la collecte à Jérusalem. Sixième et dernière remarque, la question du catéchone, le chapitre 7, en lien avec 2 Thessaloniciens, est absolument passionnante en théologie politique, hein, Carl Schmitt, Eric Peterson, mais selon moi, nous éloigne un peu du pôle historique et rompt un peu avec l'axe majeur du livre. Cela dit, l'analyse me paraît très solide, sur le fond, je rejoins tout à fait l'analyse qui est faite de 2 Thessaloniciens. Une petite remarque pignolina, dirait mon directeur de thèse en italien. L'allusion n'est pas une citation, page 75, la note 1. 2 Pierre 3 fait allusion à Paul, mais ne le cite pas. C'est la question, on peut penser que c'est une allusion à Paul, mais ce n'est pas directement une citation. Il y aurait bien d'autres points pour conclure sur lesquels la convergence entre ce qu'exprime Olivier dans le livre et la recherche actuelle mériterait d'être développée bien davantage. Par exemple, sur la grande ambiguïté de la notion de religion, confère page 9, qui fait écho aux travaux des 2 Daniel, Daniel Boyarin et Daniel Dubuc. La naissance du concept de religion est très débattue. Je le rejoins aussi totalement, ça a été relevé par Camille, sur la nature profondément juive et hellénistique de Paul, puis c'est un des points sur lequel je renie ma thèse, puisque naïvement, je voyais un peu Paul comme un être métis culturellement, la double culture, et au fond, grâce à Eric Grün, je pense que Paul est fondamentalement un homme culturellement unifié, qui est un juif hellénistique, dont le judaïsme n'est remis en cause par personne sous prétexte qu'il serait hellénophone ou hellénistique. Voilà, il est accusé sur des bases théologiques ou de pensée, mais pas là-dessus. Donc, et ne pas le voir comme un juif marginal parce qu'hellénophone. Pour conclure, j'ai trouvé la lecture de 1 Thessaloniciens 1 sur l'effort et le travail des 3 vertus théologales absolument remarquable, et à la fois fidèle à Paul et profondément catholique. C'est un de mes thèmes chers, l'hupomonée, la constance et la vertu paulinienne par excellence, page 81. Et je conclurai avec cette petite perle, l'indice de la charité, le signe de la fidélité dans l'effort, c'est l'expérience humaine de la fatigue. Page 86.
C'est rassurant.
Voilà.
Merci beaucoup, Marc. La parole est maintenant à Isabelle.
Merci beaucoup, Camille. Et donc, d'abord, je voudrais remercier Olivier pour ce beau livre que j'ai lu avec intérêt, un livre dense, stimulant. Bon, comme l'a déjà expliqué Marc, l'ambition d'Olivier est de s'approcher autant que possible du Paul primitif en confrontant les travaux historiques les plus récents sur Paul avec la réflexion philosophique contemporaine. Alors, bien évidemment, moi, je ne vais pas me situer d'un point de vue exégétique, vous avez bien compris. Bon, et comme tu l'as déjà dit, Marc, Paul, selon Olivier, enfin, c'est une belle formule d'Olivier, est à la fois et indissolublement juif et hellénisé, mais c'est un juif messianiste qui témoigne d'un événement qui vient bouleverser la philosophie. Alors, je voudrais m'arrêter au sous-titre de l'ouvrage, qui me pose quand même quelques questions. Une introduction à l'essence du christianisme. Ce sous-titre étonne de prime abord, Il évoque immédiatement le livre du théologien allemand Adolf von Harnack, intitulé précisément « L'essence du christianisme ». Et donc, j'interrogerai en conclusion Olivier à ce sujet. Mais d'emblée, je voudrais dire comment Olivier entend dire quelque chose de l'essence du christianisme. Sa méthode est phénoménologique, mais, je cite, « puisque les phénomènes ne sont rien sans les discours qui les décrivent, il importe d'analyser les témoignages textuels qui y donnent accès. » Donc, c'est précisé page 12. La phénoménologie se double d'une généalogie, car pour approcher authentiquement du premier christianisme, il faut détruire, c'est un verbe que Olivier aime bien, nos représentations fausses qui résultent de l'histoire. Alors pourquoi le choix de Paul pour introduire à l'essence du christianisme ? Eh bien parce que Paul est à l'origine de l'expérience chrétienne et parce qu'il met par écrit une forme de vie à sa naissance. On peut reconnaître en Paul, je cite, « une figure cohérente du christianisme des origines », page 14. Mon propos. Eh bien, je voudrais d'abord, dans un premier temps, préciser le rapport de Paul à la philosophie, à partir de ce livre. Ensuite, bon, mon voisin m'y a fortement invité, m'interroger plus spécifiquement sur la manière dont Olivier présente l'interprétation augustinienne de Paul, et en conclusion, esquisser l'une ou l'autre question. Donc d'abord, les rapports entre l'apôtre Paul et la philosophie, et il faut bien voir quand on lit le livre que ceci recouvre plusieurs choses. Trois qui bien évidemment se croisent. Premièrement, ça veut dire s'interroger sur la validité des interprétations philosophiques de Paul. Deuxièmement, ça veut dire déterminer quelle est la position de Paul sur la philosophie. Troisièmement, c'est enfin proposer une approche philosophique de Paul, plus précisément une approche phénoménologique de la forme de vie et d'expérience humaine décrite par Paul. Alors je reprends ces trois points. S'interroger sur la validité des interprétations philosophiques de Paul. Quelle est donc la validité de ces interprétations traditionnelles ? Olivier cite notamment Augustin, Luther, Heidegger, etc. Donc, Olivier entend les détruire pour éliminer les représentations fausses que nous projetons sur Paul. Et donc c'est dans ce contexte qu'il utilise la généalogie. Et dès le chapitre 1, Olivier s'en prend à l'interprétation heideggerienne de Paul. Bien évidemment, je n'irai pas défendre l'interprétation heideggerienne de Paul. Bon, j'explique en quelques mots ce que ça signifie, mais de façon un peu allusive peut-être. Heidegger voit d'abord dans l'interprétation phénoménologique de la forme de vie chrétienne primitive la condition de possibilité de la destruction de la théologie chrétienne et de la philosophie occidentale. Bon, c'est dans Phénoménologie de la vie religieuse, page 150. Alors, pour opérer cette destruction, Heidegger s'appuie sur Paul, mais Paul, lu à la lumière de Luther, plus exactement lu à la lumière de ce qu'il pense être la pensée de Luther, et en fait, comme le montre très bien Olivier, il lit Paul et Luther avec les lunettes de Harnack. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de filtres. Dans un second temps, à Heidegger, dans le cours de 1935, Introduction à la métaphysique, la lecture de Paul lui sert à établir, de façon beaucoup plus radicale, qu'une philosophie de la religion chrétienne est impossible. La philosophie ne doit pas traiter de Dieu, et Olivier cite une phrase bien connue mais très claire, une philosophie chrétienne est un cercle carré. Donc ce que cherche à montrer Olivier, à juste titre c'est certain, c'est qu'une telle interprétation n'est fidèle ni à Luther ni à Paul, et simplement, donc je ne discuterai bien évidemment pas du tout cette thèse qui me semble tout à fait exacte, simplement je soulignerai pour y revenir plus tard que effectivement Olivier souligne que la version luthérienne de la théologie augustinienne de la grâce, c'est finalement l'interprétation augustinienne de Paul. Donc en fait, évidemment, Augustin va être discuté comme tel. Mais non seulement Olivier s'interroge sur les interprétations traditionnelles de Paul, mais aussi sur les interprétations contemporaines de Paul, notamment Agamben, Badiou. Et bon, je vais retenir juste un élément, mais c'est pour vous donner envie d'en lire davantage. Ce qu'Olivier explique sur Alain Badiou à propos de l'universel, page 150 et suivante. Selon Alain Badiou, Paul est en Occident l'un des premiers théoriciens de l'universel. Et cette thèse repose sur trois affirmations. Première affirmation, l'événement messianique est pour tous, il permet un discours universel de salut. Il n'y a plus ni juif ni grec. Deuxième affirmation, cette universalité est indifférente aux différences. Troisième affirmation, elle implique davantage de rupture que de continuité avec le judaïsme. Alors, quelle est la position d'Olivier par rapport à cette thèse d'Alain Badiou? Bien, il souligne, et je pense que c'est vraiment intéressant, que cette universalité est radicalement juive. Les stoïciens avaient déjà inventé l'universel, le cosmopolitisme. Mais ce que Paul a inventé, c'est un sens particulier de cette universalité, un universalisme juif. Et évidemment, ici, on peut penser à Romains 11 sur l'olivier franc et l'olivier greffé. Les païens sont greffés sur l'arbre noble du peuple judéen. Deuxième aspect, ce n'est pas une universalité abstraite, car Paul tient compte des particularités ethniques. Il ne tient pas le même discours aux juifs et aux païens. Et je note cette excellente formule à propos de la question des idolotites. Paul invente la distinction entre la culture et le culte. Deuxième aspect, déterminer quelle est la position de Paul sur la philosophie. Autrement dit, est-ce que Paul condamne la philosophie en 1 Corinthiens 1 quand il oppose la sagesse de la croix à la sagesse du monde? Ou est-ce qu'il faut comprendre autrement l'expression « sagesse du monde » On peut penser par exemple à 1 Corinthiens 1, 20, « Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde ?» Eh bien, Olivier montre qu'il n'en est rien. La Sophia dont parle Paul désigne en effet toutes les sortes de savoirs, depuis la médecine jusqu'à la philosophie, en passant par l'art de jouer d'un instrument. Et plus précisément, le terme évoque les sophistes, ces maîtres du savoir. Paul n'est donc pas un antiphilosophe, il s'en prend à toutes les formes de savoir grec, y compris la rhétorique. Et finalement, son rival est plus spécifiquement le sophiste, celui qui prétend tout savoir. Et j'ai bien aimé les parallèles suggestifs faits par Olivier, avec le Protagoras et le Phèdre de Platon. Bon, si bien que, finalement, Paul se présente comme Socrate face à ses adversaires. Je cite une de tes formules, « Il prend pour lui-même la place qu'occupait la philosophie en but aux attaques des sophistes. » Donc, tout ça pour dire que Paul est tout sauf antiphilosophe. Donc, Paul ne rejette pas le logos, la rationalité comme telle, mais il veut faire place à une autre sagesse, la sagesse de Dieu. La parole de la croix n'est pas un savoir de plus, elle est puissance de Dieu, une puissance qui se déploie dans la faiblesse et qui est destinée en particulier aux faibles, aux sans-savoir, aux exclus. La sagesse de la croix, c'est la charité. Alors, autre aspect qui me semble important à souligner, c'est le rapport effectif de Paul aux philosophes. Et ici, je retiens juste un exemple, 1 Corinthiens 7, et donc là, je ne fais qu'exposer ce qui explique très bien Olivier, mais qui m'a semblé très suggestif. Donc, c'est dans le chapitre 3, intitulé « Éthos, l'usage du monde et la suspension des différences ». Et donc ici, Olivier propose de nombreux rapprochements avec des auteurs anciens sur la notion d'usage. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur tous, mais avec Xénophon, économique 1.11, avec Platon, bon, Alcibiade 129d, 132e, bon, texte bien connu, la distinction entre celui qui se sert d'une chose et la chose dont il se sert, qui permet de définir l'homme par l'âme, avec Aristote aussi, physique 2, 2, 194a, Nous usons de toutes choses comme si elles existaient pour nous. Aristote voulant dire ici que toutes les choses nous apparaissent comme des moyens dont nous sommes la fin. Le but d'Olivier avec ses rapprochements est de montrer la nouveauté de la pensée de Paul. Loin de chercher, je cite, un principe de centralisation vers le soi, Paul évoque, je cite encore, un principe de désactivation, puisque en 1 Corinthiens 7, il invite le croyant à user du monde comme n'en usant pas. Alors évidemment, là, on se dit, et c'est ce que fait bien ce que propose aussi Olivier, qu'un rapprochement avec les stoïciens paraît nettement plus pertinent. Mais Olivier le développe de façon très suggestive pour montrer comment Paul subvertit l'éthique stoïcienne. Pour les stoïciens, les biens extérieurs sont indifférents. C'est l'orientation de l'usage qui les rend bons ou mauvais. Bon, par exemple, pour Épictète, c'est bien connu, le bon usage des choses consiste à ne désirer que ce qui dépend de nous. L'homme est alors invincible, il se suffit à lui-même. Bon, mais parmi les indifférents, il peut y avoir des préférables, et ici c'est intéressant de noter que Paul lui-même, dans 1 Corinthiens 6, explique « Tout est en mon pouvoir, mais tout n'est pas profitable ». Donc ça rejoint a priori ce que disent les stoïciens. Néanmoins, Paul subvertit le sens de l'éthique stoïcienne. Pourquoi ? Eh bien parce que le but n'est pas de sauvegarder sa liberté intérieure. Le but, c'est de vivre de manière toujours ouverte à l'avènement du Messie. C'est en cessant de coïncider avec le monde que l'homme peut voir avec justesse sa vie et son action. Donc c'est une citation. C'est une suspension non pas de l'action, mais de l'investissement du moi dans l'action. Donc vous voyez que sous ce deuxième aspect, l'approche d'Olivier est très riche aussi et qui nous met en perspective Paul et toute la pensée philosophique antique de façon très très suggestive, en tout cas pour un philosophe. Mais il y a un troisième aspect qui consiste à proposer une approche philosophique de Paul, plus précisément une approche phénoménologique de la forme de vie et de l'expérience humaine décrite par Paul. Puisque, nous explique Olivier, les lettres de Paul sont des événements qui bouleversent et reconfigurent la philosophie, Paul donne quelque chose de neuf à penser. Et ici, je ne retiendrai qu'un seul exemple, c'est la manière dont Paul nous invite à nous situer par rapport au temps et par rapport au cosmos. Je fais ici allusion au chapitre 2, « Cosmos, le temps de la fin ». La pensée paulinienne du cosmos transforme radicalement la topologie et la chronologie de la philosophie grecque. Puisque pour Paul, l'homme est l'être exposé, exposé à la pression du monde, mais aussi à un avènement toujours éventuel. Ainsi, le croyant ne vit plus dans le temps des horloges, chronos, mais dans le kairos, l'occasion favorable de rencontrer le Messie. C'est de l'imminence, non de la présence, que le temps tire son sens. En ce qui concerne la topographie, le croyant est à l'étroit dans le monde. Il n'y trouve plus sa place, il ne coïncide plus avec lui. Bon, et enfin, la fin dernière commence dès maintenant à paraître. La tribulation impose une pensée de la mort qui est en même temps un triomphe de la vie sur la mort. Donc voilà les trois aspects que je voulais souligner sur le rapport entre Paul et la philosophie. Alors j'en viens, deuxième temps qui sera plus bref, à la lecture augustinienne de Paul selon Olivier Boulnois. Donc, Olivier s'en cache pas, il s'agit de détruire l'interprétation d'Augustin, qui repose sur trois piliers, je cite, c'est page 130-131. Premièrement, Romains 3 signifie que l'ère de la foi chrétienne remplace l'ère de la loi. Deuxièmement, Romains 5 signifie que l'homme est soumis à la concupiscence en raison du péché originel. Troisièmement, Romains 7 signifie à partir des écrits anti-pélagiens que la description de l'impuissance porte sur Paul lui-même, donc que cette contradiction vaut encore pour l'homme sous la grâce. C'est ce que tu as déjà beaucoup développé, Marc. Alors, il y a beaucoup de points avec lesquels je vais être d'accord. Il y en a un sur lequel je ne serai pas d'accord du tout. Sur l'interprétation augustinienne de Romains 7. Bon, Olivier, tu le notes de façon très claire. Et je dirais qu'il est très, très largement accepté dans tous les travaux sur Augustin aujourd'hui. C'est qu'il y a une évolution incontestable de l'interprétation augustinienne de Romains 7. Mais réalisons bien que la deuxième interprétation est tardive. Autrement dit, très largement, Augustin développe la première interprétation. Hein, très, très largement. Donc il ne faudrait pas que ça fasse oublier, parce que ici, ce n'est pas le premier Augustin au sens de l'Augustin avant Lat Simplicianum, c'est-à-dire avant 395-396. En fait, bon, là, je n'ai pas été revoir les dates exactes, mais ce n'est même pas au début de la controverse pélagienne que l'interprétation d'Augustin change. Il y avait une controverse entre Béroir et Dodaro, mais à mon avis, c'est pas avant 416 ou 418. Autrement dit, c'est vraiment la fin de la vie d'Augustin. Bon, donc déjà, il faut bien mesurer que pendant la majorité de sa vie, Augustin développe l'interprétation qu'aujourd'hui on soutient. Et il faut bien comprendre aussi le contexte dans lequel il développe cette nouvelle interprétation, c'est qu'il est face aux Pélagiens, et évidemment, si Paul parle en première personne, c'est un argument très fort pour dire aux Pélagiens, écoutez, vous sous-estimez l'impact du péché dans votre vie de chrétien. Vous voyez ? Donc il faut resituer aussi cette interprétation en contexte. C'est pas pour donner raison à Augustin, mais c'est pour dire que ça s'explique dans une certaine évolution et dans un contexte hérésiologique. Disons qu'en tout cas, beaucoup de textes soutiennent vraiment la lecture aujourd'hui traditionnelle, aujourd'hui acceptée de Romains 7. Alors, le point sur lequel je ne vais vraiment pas être d'accord du tout, c'est la position d'Augustin vis-à-vis de la loi. Pour tout dire, je pense que Olivier a lu un tout petit peu trop vite le Contre-Faust 19, le livre 19 du Contre-Faust. Parce que la difficulté, c'est que la citation qu'il prête à Augustin est en fait une citation de son adversaire, c'est-à-dire de Faust. Ce qui évidemment pose un problème, parce qu'en fait, il va complètement détruire cette interprétation. Donc, c'est Contra Faustum 19.2 qui est cité, page 148. Et en fait, donc je peux citer cette phrase, page 148, où, donc Olivier, tu écris, Augustin, mais c'est là où il faudra mettre Faust, opposait la loi juive à la loi du Christ. Bon, parce qu'en fait, il faut bien voir que chaque livre du Contre Faust commence par toute une série de paragraphes où Augustin recopie le texte de Faust, et ensuite, il démolit l'interprétation de Faust. Donc, en fait, la distinction entre trois lois, c'est une distinction faite par Faust lui-même, mais non pas du tout par Augustin, tant et si bien qu'Augustin va la discuter par la suite. Évidemment, du coup, ça change complètement les choses. Et évidemment, on ne va pas pouvoir en conclure que de la loi juive, Augustin ne retient que les conséquences les plus négatives, puisque c'est exactement l'inverse qui se passe. En fait, il faut lire, et c'est un ouvrage qui est très mal connu, mais maintenant, personne n'a plus aucune excuse pour ne pas le lire, puisque nous l'avons publié dans la bibliothèque augustinienne, déjà les deux premiers volumes, et le troisième est quasi sous presse, donc le Contre-Faust, le manichéen. Ce qui est extraordinaire et qui, à mon avis, peut faire tomber beaucoup de fausses idées sur Augustin à ce sujet, c'est que, donc, Faust, le manichéen, disons, est contre les Juifs par tous les bouts. Enfin, je veux dire, contre l'Ancien Testament ne vaut rien, le peuple juif est méprisable, enfin, bon. Et qu'est-ce que fait Augustin pendant tout l'ouvrage, qui comporte quand même 32 livres ? Qu'est-ce que fait Augustin ? Eh bien, il défend indéfiniment le peuple juif, la loi juive, les prophètes juifs, etc. Autrement dit, quand on lit cet ouvrage, on ne peut plus du tout avoir, tenir certaines affirmations comme quoi Augustin serait contre les Juifs. Et disons qu'il y a deux ouvrages récents, celui de Paula Fredriksson, Augustine and the Jews, et d'autre part celui d'Alban Massy, une thèse que j'ai dirigée sur le contre-Faust. C'est le titre exact, c'est « Peuple prophétique et nation témoin, le peuple juif dans le contra-Faustum manichaeum de saint Augustin ». Bon, ces deux ouvrages montrent à quel point Augustin relie le christianisme à ses racines juives. Alors évidemment, ça change quand même beaucoup les choses, parce que c'est pas un Paul qui est loin du judaïsme, c'est un Paul qui est aussi ancré dans le judaïsme dont Augustin parle. Alors, je m'explique un tout petit peu. Loin de critiquer la loi, Augustin en prend systématiquement la défense contre Faust, donc dans ce fameux livre 19, qu'il s'agisse des préceptes cultuels. Alors, les préceptes cultuels, il explique que ces préceptes avaient une valeur prophétique et que si on ne continue pas à les accomplir, c'est parce que la vérité est advenue et que donc il n'y a plus besoin de continuer à les pratiquer. Mais là, par exemple, il faut voir Contra Faustum 6, paragraphe 3 à 5, ou 19, paragraphe 9-10. Mais surtout, il prend la défense des préceptes relatifs aux mœurs. Et là, en particulier, dans le livre 19, les paragraphes 19 à 30. Loin d'opposer comme Faust l'Ancien et le Nouveau Testament comme deux arbres, l'un aux fruits amers, les Juifs, et l'autre aux fruits doux, les chrétiens, Augustin explique, en s'appuyant sur Romains 11, je cite Augustin, que les nations, telles un olivier sauvage, ont été greffées sur la racine même de l'olivier, c'est-à-dire sur la souche des saints hébreux, afin de participer à la riche sève de l'olivier. La citation est dans le Contra Faustum 9, 1, 2. Attendez, la référence est peut-être fausse, là, tout d'un coup. J'ai dû faire une faute de frappe. Je pourrais la revérifier.
C'était 19.
Mais ça ne peut pas être 19, parce que 19, 1, 2, c'est Faust. Mais, il faut que je revérifie, mais je te l'enverrai. Le Contra Faustum, livre 9, est très court. Donc, je comprends. J'ai mis 1, 2, parce que 1, j'ai dit que c'était contre Faust. Mmh. Donc, il y a la position de Faust. Et 2, c'est la position d'Augustin. Parce que ce livre 9 est très court. Bon, donc, Augustin lie étroitement le christianisme à ses racines juives. Et du coup, conséquence, on ne peut pas affirmer, bon, comme tu le fais, page 149, ou 148-149, que selon Augustin, là je cite ce que tu écris, « la division essentielle n'a que deux termes et qu'elle passe entre les Juifs et les chrétiens, les premiers étant soumis à la loi, les seconds vivant sous la loi du Christ, c'est-à-dire sous sa grâce. » En fait, selon Augustin, les patriarches et les prophètes eux-mêmes étaient déjà des hommes spirituels et libres, même au temps de la servitude. Et l'Église est constituée à la fois, je cite, « des saints d'Israël et des païens convertis au Christ ». Donc là, je m'appuie là simplement sur le De Doctrina Christiana, livre 3, 8, 12, 9, 13. Bon, donc ce point me semble vraiment à revoir. Bon, quant à l'interprétation de Romains 5, 12, l'interprétation augustinienne de Romains 5, 12, là, je n'y reviendrai pas. Bon, parce que je crois que ça a suscité une ample littérature. Tu rappelles d'ailleurs à juste titre les difficultés d'interprétation qui étaient liées à la traduction latine dont disposait Augustin. Bon, mais qu'en fait, qu'on retrouve aussi chez Julien Desclames, par exemple. Enfin, c'est pas. Mais enfin, qui du coup compliquait quand même beaucoup l'exégèse de ce verset. Et je voudrais, parce que tu m'as écrit que ce livre n'était peut-être pas très augustinien, bon, mais qu'il était en dialogue étroit, je voudrais souligner qu'il y a quand même beaucoup de consonances entre le Paul que tu décris et le Paul d'Augustin. Et donc, d'abord, tu en as repéré quelques-unes, enfin, souligné quelques-unes au passage, et ça me plaît peut-être de vous les évoquer, et puis j'en évoquerai encore une autre, mais à mon avis, il y en aurait beaucoup d'autres. Par exemple, à propos de la tribulation. Donc ce sont des textes qui sont cités page 70-71. Augustin montre comment la tribulation révèle l'option fondamentale de chacun. Et là, bon, il y a le sermon sur la chute de Rome au paragraphe 11, mais aussi le sermon 81, 2 et 7. Je cite, mais j'ai corrigé sur un point la traduction. « Sous le pressurage, tu te préparais à garder la patience, à tenir la constance, à ne pas consentir au péché. Si tu gardes cela, si à l'avenir tu le gardes encore, le pressurage ne sera pas pour toi la ruine. Il te vaudra ce qui fait la valeur du pressoir. Non pas écraser l'olive, mais en faire couler l'huile. Que la tribulation vienne, elle sera ce que tu auras voulu. Ou bien épreuve, ou bien, moi je dirais condamnation et non pas damnation. Parce que damnatio peut dire condamnation quand on n'est pas dans le temps ultime. Telle elle te trouvera, telle tu seras. Bon, mais c'est vrai que la phrase est très forte et je pense que elle est très intéressante. De même, et alors là je pense qu'Augustin est extrêmement paulinien, quand il s'agit de la solidarité des membres et de la tête dans l'unique corps du Christ. Bon, tu as cité quelques phrases des homélies sur l'évangile de Jean, 108.5 ou 111.6, je cite cette dernière phrase. « Il est en nous parce que nous sommes lui-même, ethnos ipsissumus, puisque comme il s'est fait homme pour être notre tête, nous sommes son corps. » Mais ça, c'est pas une fois par hasard qu'Augustin le dit. On pourrait il y a un nombre considérable de fois. Je dirais qu'Augustin a un sens très très fort. Enfin, Paul est quand même une référence majeure dans l'œuvre d'Augustin. Et en tout cas, ce sens du Christus totus me semble développé de façon extraordinairement forte chez Augustin. Alors, autre écho. Tu écris page 195. Pour Paul, l'humanité est en devenir. Elle est tout entière tendue entre le premier et le dernier homme. Et alors j'avais envie de mettre en écho la phrase d'Augustin dans le commentaire du psaume 38, paragraphe 6. « Vois, il traîne encore Adam et se hâte ainsi vers le Christ. » C'est une manière un peu autre de le dire, mais ça dit la même chose, je pense. Bon, j'en conclurai que si l'interprétation augustinienne de Paul peut nous paraître en certains points contestable à la lumière des dernières recherches sur Paul, et je l'accorde tout à fait, il ne faut pas oublier que toute lecture s'opère dans un contexte déterminé et qu'Augustin devait pour sa part, et c'était un double défi, se libérer de l'interprétation manichéenne de Paul, donc j'ai insisté dans le contre-Faust, et s'opposer à la lecture pélagienne de Paul qui vidait de son sens la croix du Christ. Et je pense malgré tout que la conception augustinienne de la grâce bon, qu'il identifie au don de l'esprit à partir de Romains 5.5, la charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, me semble quand même assez fidèle à Paul. Alors je conclurai sur deux questions plus générales. Donc Olivier conclut que Paul nous introduit à l'essence du christianisme en proposant une forme de vie, la christianité. Ce que Paul propose pour accéder à Dieu, c'est un nouvel être au monde. Et les conditions d'accès à la connaissance de Dieu sont la foi, l'espérance et la charité, comprises comme modalité de l'existence et de l'attention messianique. Alors, ma question c'est, n'est-ce pas réduire l'essence du christianisme que de la définir exclusivement comme une forme de vie ? Bon, pour Arnac, l'essence du christianisme repose sur les trois traits centraux de la prédication de Jésus, le royaume de Dieu et sa venue, Dieu le Père et la valeur infinie de l'âme humaine, la justice et le commandement d'amour de Dieu. Autrement dit, c'est plus large comme manière de voir. Alors, une autre question subsidiaire, c'est comment penses-tu ta propre recherche vis-à-vis d'une recherche comme celle de Arnac ? Et puis ma deuxième question concerne la place de ce livre dans ton projet global de recherche. Autrement dit, comment ce livre prend-il sens par rapport à aux livres récents que tu viens de publier, puisque tu as beaucoup publié récemment. Je signale Généalogie de la liberté, paru au Seuil en 2021, et Le désir de vérité, vie et destin de la théologie comme science, d'Aristote à Galilée, au PUF en 2022. Alors, ma question, c'est pourquoi cet intérêt pour Paul et la philosophie ? Et bon, je risque l'une ou l'autre remarque. Disons que pour avoir lu La généalogie de la liberté, je reconnais dans les deux ouvrages le même recours à la généalogie pour détruire les fausses manières d'aborder un problème. Un autre point entre les deux ouvrages me semble le privilège donné à l'éthique, puisque dans La généalogie de la liberté, tu écris page 480, que l'éthique, c'est-à-dire en conclusion, que l'éthique est l'art de devenir libre. La liberté n'est pas un postulat de la raison pratique, elle est la raison pratique, et l'homme ne naît pas libre, mais il peut le devenir. Autrement dit, ce primat donné à l'éthique rejoint l'importance que tu donnes à la forme de vie décrite par Paul. Et je suppose, mais ce n'est qu'une hypothèse, que ton projet de préciser l'essence du christianisme n'est pas étranger à ta recherche dans le cadre du laboratoire d'études sur les monothéismes. Et je pense, par exemple, à ta contribution à l'occasion du cinquantenaire du LEM, penser le monothéisme, le LEM et la philosophie de la religion. En tout cas, ce ne sont que des hypothèses, et je te remercie par avance de tes éclaircissements et des réponses que tu pourras nous proposer.
Merci Isabelle. Olivier, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à Camille. Ça m'a rappelé évidemment une période malheureusement un peu ancienne déjà, où nous travaillions ensemble et où vous travailliez à votre thèse. Merci à Isabelle pour cette lecture extraordinairement précise et qui témoigne de notre longue amitié. Et je suis vraiment très honoré, très heureux de faire la connaissance de Marc Rastoin, avec qui j'ai déjà beaucoup correspondu pour des questions administratives essentiellement, malheureusement, mais que je suis très heureux de découvrir en chair et en os. Partant du principe que le plus simple est souvent le plus fondamental, je souhaite vous présenter ici tout simplement la genèse, la structure et les résultats de ce livre, Saint Paul et la philosophie, une introduction à l'essence du christianisme. Mon plan sera très simple. Premièrement, comment ai-je écrit ce livre? Deuxièmement, un échantillon des résultats. Quels résultats suis-je parvenu? J'aurais pu intituler cette conférence « Saint Paul n'est pas du tout ce que vous croyez ». Comment ai-je écrit ce livre? D'abord, pourquoi? Pourquoi ai-je écrit ce livre? J'ai été invité en fait à donner les conférences Étienne Gilson à l'Institut catholique de Paris en mars 2021, ainsi que les Stanton Lectures qui sont liées à la Divinity School de Cambridge en mai 2021. La chaire Gilson est consacrée à la métaphysique et à son histoire. Il m'a donc semblé que la question la plus urgente que cette discipline puisse aborder, particulièrement dans un institut catholique puis une Divinity School, c'était celle de la signification du christianisme pour la pensée. C'était aussi une manière de rendre hommage à Étienne Gilson, puisqu'on sait que l'une de ses préoccupations était de savoir s'il existe une philosophie chrétienne, c'est-à-dire au fond, en quel sens l'événement du Christ a-t-il modifié l'histoire de la pensée? Je voulais répondre à la question, qu'est-ce que l'essence du christianisme et le faire du point de vue de la philosophie? Est-il possible d'exprimer par des concepts philosophiques le cœur de l'existence chrétienne? Et il m'a semblé qu'une lecture philosophique de Paul était la voie qui y conduit. En effet, c'est une évidence, Paul se situe au tout premier commencement du christianisme. Ce qui m'intéresse ici n'est donc pas l'individu Paul, sa biographie, mais Paul en tant qu'il représente et aussi qu'il institue le premier christianisme. De surcroît, cela vient d'être dit, j'ai essayé de montrer que saint Paul était de part en part et indissolublement à la fois juif et grec. Et en tant que grec, il était imprégné d'une certaine culture qui supposait au moins une certaine teinture de philosophie, quelques concepts. C'est donc dès les origines du christianisme que s'est produit le dialogue du christianisme avec l'hellénisme et indirectement avec une culture philosophique. Ce qui ne veut évidemment pas dire que je considère Paul comme un philosophe, ni le christianisme comme une philosophie. Je dois ajouter que, en fait, je me suis demandé pourquoi, depuis quand cette idée me trottait dans la tête. Et en venant ici dans le métro, je crois que j'ai trouvé. C'est aussi ancien que mes travaux sur Duns Scott, c'est-à-dire ça fait plus de 30 ans. Pourquoi ? Parce que l'exergue de l'introduction à Duns Scott de Étienne Gilson, là encore, est la phrase suivante, « Philosophus noster scilicet paulus ». C'est une citation de Duns Scott, j'y reviendrai tout à l'heure. « Notre philosophe, à savoir Saint Paul ». Donc il y a cette idée qui, voilà, de Paul comme ayant un intérêt philosophique, ou ayant été considéré comme philosophe sous un certain point de vue. Alors évidemment, j'ai aussi été, il y a des choses qui m'ont aidé à considérer que ce n'était pas une tâche absolument impossible et surhumaine, puisque j'ai bénéficié, j'avais déjà lu les travaux de Giorgio Agamben, Le temps qui reste, Le Saint-Paul de Stanislas Breton, le livre de Taubes, et le livre de Badiou, même si je le trouve pas très bon, pour être poli. Alors donc, quel est l'objet de ce livre ? Je crois que là, nous comprenons un petit peu l'articulation entre le titre et le sous-titre. Le titre, Paul et la philosophie, renvoie d'abord à la relation de Paul à certains concepts philosophiques, mais aussi à la relation que les penseurs ont eue envers Paul. Je pense à ceux qu'il discute abondamment, Augustin, Luther, Pascal, Kierkegaard, Heidegger, Ricoeur, etc. Et puis enfin, ça renvoie à ma propre position de philosophe lisant Paul. Le sous-titre, Introduction à l'essence du christianisme, signifie que c'est en revenant à l'essence du christianisme primitif et à la genèse du Nouveau Testament que nous pouvons approcher ce que le christianisme a de propre, c'est-à-dire, tout simplement, le Christ. Enfin, ce que le christianisme a de propre, c'est que c'est seulement cela. C'est-à-dire le Christ, mais en tant qu'il ne peut être atteint qu'à travers une vie tournée vers lui, ce qui répond peut-être ce qui commence à répondre à la question d'Isabelle, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me sens sur la question d'une forme de vie. Mais analyser Paul, ce n'est ici qu'une introduction parmi d'autres possibles, c'est pourquoi j'ai insisté sur une introduction, c'est pas l'introduction par excellence. Nous pourrions choisir d'autres voies, par exemple celle des paraboles du Christ, celle des évangiles synoptiques, celle de l'évangile de Jean. Mais alors, qu'appelons-nous essence du christianisme ? Lorsque je parle d'essence du christianisme, j'essaie de penser ce que le christianisme a en propre, ce qu'il distingue notamment du judaïsme et du paganisme dans lesquels il est né. Mais je me garderai bien de définir cette essence comme étant l'ensemble des faits religieux, culturels, dogmatiques qui ont fait le monde chrétien. Je réserve à cet objet le terme « chrétienté » en allemand « Christentum » en anglais « Christendom ». Car, pris en ce sens, l'essence du christianisme est livrée aux mains de la métaphysique qui va rapidement trouver sa vérité ailleurs. Moi, je ne pensais pas à Arnac, mais je pensais à l'esprit du christianisme chez Feuerbach, hein, l'essence du christianisme chez Feuerbach. Donc, voilà, chez Feuerbach, c'est dans l'athéisme, c'est dans une anthropologie qui elle-même est sans Dieu qu'on va trouver la vérité du christianisme. Non, ce dont je parle, c'est tout autre chose. C'est ce que Overbeck, le théologien et voisin de Nietzsche, le théologien ami de Nietzsche et voisin de Nietzsche, ce qu'il appelait christianité, en allemand Christlichkeit, c'est-à-dire en anglais on dit Christianicity, je l'ai appris récemment. Il s'agit ici de l'être chrétien qui a sa vérité en lui-même parce qu'il désigne la forme de vie du chrétien, le cœur le plus intime de l'existence croyante, espérante et aimante. C'est d'ailleurs aussi le sens originel du latin Christianitas qui signifiait au début ce qui est propre aux chrétiens, aux disciples du Christ. Mais évidemment, à la suite de l'institutionnalisation juridique de l'Église, il a pris le sens politique que nous connaissons de chrétienté. La christianité, au fond, c'est l'existence qui choisit d'exister en relation avec le Christ. Selon une formule de Heidegger, cette fois-ci heureuse, c'est la foi du Christ dans le Christ. La foi au Christ, pardon, dans le Christ. Ce n'est donc pas l'histoire du christianisme comme telle, ni même le noyau dogmatique, mais c'est la forme de vie croyante qui rend possible l'histoire du christianisme et le développement du dogme. C'est cela que je cherchais en lisant Paul. Cette forme de vie n'est pas seulement individuelle. Elle a d'abord été vécue dans une communauté. Elle s'est inscrite dans le Nouveau Testament. Mais c'est précisément grâce à cette inscription que le chrétien, en retour, peut déchiffrer son existence à la lumière du Nouveau Testament et scruter le Nouveau Testament à la lumière de son existence. Ce qui s'est déposé dans les Écritures, le chrétien peut chaque jour le développer et le déchiffrer d'une manière nouvelle à partir de sa propre vie. Troisième point, à quelle discipline appartient cette enquête ? Il est possible, et surtout légitime, d'aborder Saint Paul et l'essence du christianisme du point de vue de la foi. C'est ce que font, au fond, les croyants tous les dimanches et même tous les jours. Mais je souhaite mettre en évidence la dimension philosophique et conceptuelle de l'existence chrétienne. En quoi Paul inaugure-t-il une nouvelle forme de vie ? En quoi témoigne-t-il de celle-ci ? Quel est ce nouvel être au monde ? Quels concepts fondamentaux sont modifiés ainsi ? Je pense au concept de mort, de temps, de monde, de mal, de volonté, etc. Or, ce sont des concepts philosophiques. Entendons-nous bien, je ne prétends pas que Paul a une nouvelle vision de la philosophie ou une nouvelle représentation du système du monde. Je pense que Paul témoigne d'une nouvelle forme de vie, celle qui a été inaugurée par la venue du Messie et qui attend sa seconde venue. Je pense que cette nouvelle forme de vie a introduit un nouveau rapport aux concepts fondamentaux et qu'elle les a modifiés. Paul n'a pas eu des idées nouvelles. Il n'a pas introduit des nouveaux concepts. Il a expérimenté un événement neuf et absolu qui bouleverse le sens des concepts anciens. Nous traitons donc du religieux comme d'un phénomène humain qui peut s'analyser ni plus ni moins que toutes les dimensions de l'existence humaine. Cette étude n'appartient pas à la théologie car elle ne présuppose pas une prise de position de foi. Elle n'appartient pas non plus à la métaphysique parce qu'elle ne tente pas de penser Dieu à partir de l'être ou de la nature. Je ne dirais même pas qu'elle s'efforce de penser Dieu, elle tente tout simplement de s'approcher du phénomène du Christ à partir de la vie du croyant. Nous pourrions prendre pour guide cette phrase attribuée à Kafka mais malheureusement apocryphe, « Nous avons des yeux pour voir, pour connaître Dieu, nous avons l'existence ». Cette étude appartient donc à la philosophie de la religion. Je n'ai pas la place de développer ce point, mais disons simplement que je dois me situer par rapport à deux grandes interprétations de la philosophie de la religion. La première est celle de Hegel, qui consiste au fond à réduire toutes les religions à des formes inférieures d'une seule, la philosophie chrétienne et même le protestantisme, afin de montrer que, je cite Hegel, dernière phrase ou quasiment de la philosophie de la religion, la philosophie de la religion a le même objet que la théologie naturelle. Bref, la religion n'est qu'une approche sur le plan de la représentation du savoir absolu de l'absolu. L'inconvénient majeur de cette théorie est de réduire toutes les religions à une seule religion, dont elles seraient des formes inférieures. La seconde hypothèse est celle de Heidegger, qui, après avoir tenté dans son cours de 1920 de fonder une philosophie de la religion, a au contraire soutenu dans une lecture radicale de Luther, qui était d'ailleurs un contresens, que la foi chrétienne exclut toute philosophie. C'était une manière donc d'interdire toute philosophie de la religion qui ne soit pas sous la dépendance de sa propre pensée, de l'ontologie fondamentale, puis de la pensée de l'être dont il était le promoteur. Mon approche est radicalement différente. Je cherche à faire l'analyse d'une expérience religieuse en allant toujours à la recherche de sa spécificité, de sa singularité. Il s'agit tout simplement de l'expérience paulinienne comme figure de l'expérience chrétienne originaire. Il s'agit de rechercher le sens des écrits de Paul en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Mon approche n'entend pas rivaliser avec les résultats de l'exégèse, même si je m'en suis évidemment servi. Je suis absolument admiratif devant les savants qui ont passé toute leur vie à scruter la même épître et qui ont parfois publié 5 articles sur un seul verset. À côté d'eux, je me sens un amateur, mais souvenons-nous qu'en latin, un amateur, c'est quelqu'un qui aime. En tout cas, je m'efforce de reconstruire l'unité de la pensée de Paul. Je tente de restituer à travers ces textes les concepts fondamentaux impliqués par la vie des premiers chrétiens et j'essaie aussi de les articuler les uns aux autres. Quatrième question, par quelle voie pouvons-nous espérer atteindre cette essence ? Nous avons d'abord un travail d'interprétation à accomplir pour reconstituer le sens des énoncés de Paul, l'articulation de ces énoncés entre eux, c'est donc un travail herméneutique. En second lieu, j'espère atteindre le christianisme comme expérience fondamentale, c'est-à-dire qu'une fois que nous avons interprété les textes, la vie chrétienne nous apparaît, avec plus ou moins d'évidence, comme une expérience fondamentale parmi d'autres. Il y a d'autres expériences fondamentales, l'expérience de l'être, l'expérience de l'art, etc. En ce sens, donc, nous avons accès à un phénomène, c'est à une expérience, Notre travail est donc phénoménologique. Mais ne soyons pas naïfs, atteindre ce phénomène n'est pas atteindre une donnée immédiate de la conscience. En troisième et dernier lieu, un aspect important de mon travail a été de me débarrasser de toute la réception de Paul. Car le risque est toujours, pour tous les textes, mais particulièrement pour Paul, de vouloir nous approprier les textes et de les adapter à nos propres présupposés. Or, il faut faire l'inverse. Il faut nous débarrasser de toutes nos interprétations courantes pour nous transporter dans ce que les textes ont d'étranger, de neuf, d'imprévisible, de surprenant. Il nous faut donc regarder en face les idées reçues sur Paul, parce que sinon, elles s'imposeraient dans notre dos à nous, et il nous faut les détruire. Donc, il faut mettre sur la table, explicitement, consciemment, les représentations, mais pour véritablement montrer comment elles sont nées et voir si elles sont justifiées ou non. Donc, il a fallu, en quelque façon, affronter, évidemment de manière très sporadique, mais 2000 ans de théologie et de philosophie, Augustin, Luther, Nietzsche, Freud, Heidegger. Donc il faut faire intervenir une troisième méthode, la généalogie. Donc il faut combiner interprétation, herméneutique, analyse d'une expérience, phénoménologie, et destruction d'une réception, généalogie. J'en viens à ma deuxième grande partie. À quel résultat suis-je parvenu? Saint Paul n'est pas du tout celui que vous croyez. En gros, l'image de Paul qui est véhiculée dans notre culture, alors je ne parle pas évidemment des théologiens et des personnes savantes, mais l'image courante, culturelle, mais philosophique aussi, qui est représentée par certains des philosophes que nous avons nommés, est celle d'un homme torturé par la chair, par le péché originel, par l'impuissance de la volonté. Politiquement, ce serait un misogyne, un partisan de la soumission au tyran. Bref, donc, en fait, Saint Paul serait, en gros, le principal responsable des malheurs de l'Occident. C'est Saint Paul le péché originel de la pensée occidentale. Bon. Et, en même temps, Saint Paul serait celui qui a trahi le message primitif de Jésus, le message primitif du christianisme. Or, Saint Paul n'est pas du tout cela. Mais avant d'en venir à cette discussion de fond, un mot sur le plan, parce que j'ai essayé de ressaisir l'expérience paulinienne dans une certaine unité. Tout simplement, j'ai pensé que l'expérience messianique et celle de Paul suppose un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport à autrui et un nouveau rapport à soi-même. Ça dessine à peu près trois grandes parties qui correspondent d'ailleurs aux trois grandes attitudes chrétiennes que décrit Paul dès le verset 3 de la première épître aux Thessaloniciens, c'est-à-dire au tout début du premier écrit du Nouveau Testament. Ton ergon tes pisteos, l'œuvre de la foi, hokopos tu agapes, la fatigue de la charité, et hypomone tes elpides, l'endurance ou la constance de l'espérance. Ces trois attitudes qu'on appellera plus tard trois vertus théologales ne sont pas trois vertus, mais ce sont trois attitudes fondamentales, trois formes de l'effort humain. L'œuvre, la fatigue, l'endurance. C'est donc tout le contraire des vertus, puisqu'une vertu rend l'action facile. Alors, la relation au monde qui passe, au monde qui, dont la figure passe, la relation au monde fonde l'espérance. Ça va être l'objet de mon chapitre 2, Cosmos, le temps de la fin. La relation à autrui nous renvoie à l'éthique de la charité. C'est l'objet des chapitres 3 à 5. Chapitre 3, l'usage du monde et la suspension des différences. Chapitre 4, la loi, l'impuissance et le judaïsme. Chapitre 5, l'empire du mal et le débordement du bien. Ces deux attitudes sont les conditions de possibilité pour penser la relation directe à Dieu, qu'on appelle la foi. C'est l'objet du chapitre 6, hein, le Messie et le moi. J'ai ajouté à ce noyau un chapitre préliminaire et une annexe. Le chapitre préliminaire porte au fond sur le statut du discours paulinien, c'est le chapitre 1 que j'ai appelé « Logos, la sagesse de la croix bon. ». Et je dois expliquer l'addition du chapitre 7, qui effectivement n'est pas du même ordre que le reste, c'est en fait une annexe. Et il s'intitule le mystère du mal et le secret de l'histoire. Alors, il est décalé doublement, puisque dans le reste de l'ouvrage, j'ai essayé d'analyser les textes qui sont authentiquement pauliniens, en utilisant uniquement, à titre d'éclairage ou de contraste, les textes qui ne sont attribués à Paul mais qui ne sont pas de sa main. Mais là, je me suis permis, effectivement, d'examiner la seconde épître aux Thessaloniciens, qui n'est évidemment pas de Paul, pour deux raisons. Premièrement, parce que dans la théologie politique du XXe siècle, c'est une autorité fondamentale, c'est la discussion de Carl Schmitt sur le catéchon, hein, ce mystérieux reteneur ou rétenteur, c'est-à-dire la puissance qui retient l'avènement de l'Antéchrist et qui du coup retient aussi l'avènement de la fin des temps. Et deuxièmement, en raison du fait qu'on emprunte souvent à cette épître l'expression « mystère d'iniquité » d'une manière dangereuse. Je crois qu'on parle souvent d'un mystère du mal pour renoncer à penser, et j'ai donc voulu un petit peu « debunk » en anglais, on dit, enfin, désamorcer, enfin, démythologiser cette expression. Donc, ce chapitre 7, donc, c'est toute une réflexion sur le mal moral et politique. Alors, évidemment, je veux laisser du temps à la discussion, donc je ne vais pas vous résumer les acquis de l'ensemble de l'ouvrage, hein, sinon on y sera encore à minuit. Mais je vais vous donner deux exemples d'interprétation, hein, deux concepts qui me semblent riches d'enseignements, et peut-être que dans la discussion, d'autres surgiront. Premièrement, la relation entre Paul et la sagesse du monde, donc c'est en gros l'équivalent du chapitre 1. Enfin, hein, et deuxièmement, le problème de l'origine du mal, c'est en fait l'équivalent du chapitre, enfin d'un chapitre du milieu sur l'éthique. Premièrement, Paul et la sagesse du monde. Alain Badiou, dans son « Saint Paul, la fondation de l'universalisme 2015 », soutient que Paul est un anti-philosophe. Je cite la page 49. « Cet événement, c'est-à-dire l'événement de la croix, est d'une nature telle que le logos philosophique est hors d'état de le déclarer, ce qui impose l'invention d'un nouveau discours, d'une subjectivité qui ne soit ni philosophique ni prophétique. » ce qui impose l'invention d'un nouveau discours, d'une subjectivité qui ne soit ni philosophique ni prophétique, est justement que ce n'est qu'au prix de cette invention que l'événement trouve accueil et existence dans la langue. Bon, le style est un peu complexe, mais l'idée est de dire vraiment que il faut un nouveau discours anti-philosophique pour parler de l'événement par excellence qu'est l'événement du Messie. Alors ça, c'est l'interprétation de Saint-Paul. De Saint-Paul par Badiou. Nous pourrions ajouter qu'en réalité, l'interprétation de Badiou est tout à fait classique, même si le mot d'antiphilosophie est moderne. Parce que faire de Paul un adversaire de la philosophie, c'est tout à fait traditionnel. Par exemple, les condamnations de la faculté des arts par l'évêque de Paris, Étienne Tempier, en 1277, commencent par un prologue qui affirme que ce discours philosophique, celui des artiens de l'Université de Paris, fait comme, je cite, « s'il y avait du vrai dans les dires de ces païens damnés », alors « damnati », on peut peut-être traduire « condamné », mais enfin bon, « s'il y avait du vrai dans les dires de ces païens damnés », à propos desquels il est écrit, deux points, « Je détruirai la sagesse des sages, car la vraie sagesse anéantit la fausse sagesse. » Bien sûr, « Je détruirai la sagesse des sages », c'est une citation de la première épître aux Corinthiens 1, 17, et Étienne Tempier, évêque de Paris, l'utilise de toute évidence pour opposer la vraie sagesse du théologien à la fausse sagesse du philosophe, du moins dans les cas où il y a contradiction entre elles. De même, j'y faisais allusion, au début du XIVe siècle, Duns Scot s'oppose aux arguments philosophiques aristotéliciens en s'écriant « Philosophus noster scilicet Paulus », notre philosophe, c'est-à-dire Paul. Autrement dit, de même que les philosophes ont Aristote pour autorité fondatrice, les théologiens ont saint Paul comme référence première. Donc, mais cette interprétation, en réalité médiévale, de Paul, qui en fait un adversaire de la philosophie, est-elle défendable ? L'attitude de Paul est-elle antiphilosophique ? D'une part, il semble indéniable que Paul revendique l'invention d'un nouveau discours. 1 Corinthiens 1, 18, le logos, la parole de la croix, est folie pour ceux qui sont perdus, mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Cette nouvelle parole fait justement la différence entre deux formes de vie, celle des hommes qui vont à leur perte, celle des hommes qui vont vers le salut. Cette parole repose sur l'expérience d'un événement neuf, soudain, impensable d'avance, l'événement de la croix du Christ, c'est-à-dire l'imprévisible événement d'un Dieu humilié pour parler comme Pascal. La parole qu'il annonce, celle de l'apôtre, doit donc être un discours qui doit, en quelque manière, s'effacer devant l'événement qu'elle annonce. Le logos de la croix est un logos qui doit être transparent, si je puis dire, à la croix. Et à contrario, cette parole détruit l'ancienne manière de parler. C'est au verset suivant, d'ailleurs, 1.19, qu'on trouve « Je perdrai la sagesse des sages » que citera Étienne Tempier. Et en 1.20, nous avons la fameuse phrase « Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde ?» sur laquelle Heidegger brodera. Mais s'agit-il d'une attitude anti-philosophique ? Autrement dit, qu'est-ce que la sagesse du monde ? Quel est l'adversaire visé par Paul ? Alors, dans le Nouveau Testament, il existe une opposition à la philosophie, mais non pas chez Paul, elle se trouve de manière plus tardive dans l'Épître aux Colossiens. C'est un auteur qu'on appelle donc Deutéro-Paulinien, un disciple de Paul de la deuxième génération. Voici ce que dit Colossiens 2.8. « Prenez garde que nul ne vous séduise par le biais de la philosophie et d'une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde et non selon le Christ. » Ici, la philosophie est associée à la tromperie. Elle consiste à suivre la tradition des hommes et non celle de la foi, à se conformer au monde et non au Christ. Comme la sagesse du monde dans l'Épître aux Corinthiens, cette philosophie se conforme aux éléments du monde. Mais monde est à prendre ici au sens biblique. Le monde n'est pas le contenant dans lequel nous sommes, mais c'est une forme d'existence, c'est l'existence sans Dieu. La philosophie conforme au monde n'est donc pas la théologie naturelle qui le connaît à partir de la créature, comme le pensera Luther qui en déduira une opposition éthique entre la théologie de la gloire et la théologie de la croix. C'est tout simplement une pensée qui se conforme à l'oubli de Dieu, une pensée trompeuse, conforme à la tradition des hommes et non à celle du Christ. Mais chez Paul, il en va tout autrement. Il n'emploie jamais le mot de philosophie. Rien ne permet donc de dire, lorsqu'il parle de sagesse, qu'il pense spécifiquement à la philosophie. Il nous faut ici relire nos citations de 1 Corinthiens dans leur contexte. Paul répond à une situation précise, le père Marc Rassouin y a fait allusion, l'église de Corinthe était secouée par des divisions. Celles-ci viennent du fait que les membres de l'église se sont laissés entraîner par la recherche d'un maître et que plusieurs maîtres sont entrés en concurrence. Le diagnostic de Paul est donc que tout le mal vient du fait que certains prédicateurs qui ont participé à la fondation de la communauté se sont présentés comme des maîtres de sagesse et que les Corinthiens ont commis l'erreur de les prendre pour tels. L'erreur est de se fier à des guides qui font montre de sagesse par eux-mêmes. Pour restaurer l'unité dans la communauté, il faut au contraire qu'ils s'effacent devant l'unique maître, le Messie, pour reprendre l'expression de Matthieu 23.10 sur ce point très paulinien. Ce qui enfle, c'est la volonté de s'affirmer comme un individu opposé aux autres, c'est de prendre le parti de l'un contre l'autre, et ainsi de diviser. Face à cette situation, quel est le but de Paul ? Il veut rétablir l'unité. 1 Corinthiens 1.10 « Je vous prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous la même parole, et qu'il n'y ait pas de division, schismata, parmi vous, mais que vous soyez tous unis dans la même pensée et dans la même conviction. Pour n'avoir qu'une seule parole, les Corinthiens doivent se tourner vers le logos qu'ils ont en commun. L'unité de la communauté ne peut se fonder sur rien d'autre que sur une parole commune, c'est-à-dire sur la parole de la croix, c'est-à-dire sur l'unique évangile de l'unique maître, le Messie, plus essentiel que l'évangile selon Apollos, selon Képhas ou selon Paul lui-même. 1 Corinthiens 1.12. Donc ce qui importe, c'est de rester ouvert à l'événement du salut, de recevoir la puissance de l'Esprit, quand même, je parle de l'Esprit, qui nous déracine et qui nous sauve, et de ne rien interposer en propre qui y fasse obstacle et qui sépare les croyants les uns des autres. Ce renversement est expliqué un peu plus loin. 1 Corinthiens 4.7. car qui te distingue et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Au lieu de la prétention, il faut mettre l'humilité. Au lieu de la division, l'unité. Au lieu de l'auto-glorification, la réceptivité à la parole de Dieu. Paul se situe donc en parfaite continuité avec la sagesse biblique. Isaïe, les proverbes, la sagesse. En 1,19, c'était en fait une citation d'Isaïe. « Je ferai périr la sagesse des sages et dissimulerai l'intelligence des intelligents. » Pourquoi ? Parce que la Torah a été donnée à tous, elle court-circuite tous ceux qui usent de leur astuce pour se préserver de son appel. Le fidèle s'appuie sur la parole de Dieu plus que sur l'intelligence des sages. De surcroît, les proverbes nous alertent sur le fait qu'il existe une forme de sagesse qui est associée à l'hellénisme. La vraie sagesse conseille aux croyants de se garder des séductions de la femme étrangère et de ses paroles flatteuses, en Proverbe 7,5. La vraie sagesse est de rester simple et d'observer les commandements divins. « Garde mes préceptes et tu vivras. » 7,1. Et selon le livre de la sagesse elle-même, la sagesse n'est pas acquise par un effort de l'homme, mais par un don de Dieu. Sagesse 8,21. C'était déjà de la sagesse que de savoir de qui vient la grâce. Donc le commencement de la sagesse, c'est de savoir que le salut ne vient pas de nous, mais de la miséricorde de Dieu. Cela dit, nous comprendrons mieux l'attitude de Paul si nous parvenons à savoir ou à deviner contre qui elle est dirigée. 4 indices peuvent nous y aider, Isabelle y a fait allusion tout à l'heure. Les 3 premiers proviennent de la seconde épître aux Corinthiens et le 4e d'un auteur qui appartient à la génération précédente, Philon d'Alexandrie. Premièrement, Paul remarque, donc c'est dans la seconde aux Corinthiens, « Nous ne sommes pas comme la plupart qui vendent au détail, le terme grec c'est kapeleontes, qui vendent au détail la parole de Dieu. » Or, cette expression, on la trouve déjà chez Platon. Il compare en effet les sophistes à des bonimenteurs. C'est dans le Protagoras 313c. De même, pour ceux qui colportent les savoirs de ville en ville et qui les vendent au détail à ceux qui les désirent, ils vantent tout ce qu'ils ont à vendre, que ce soit bon ou mauvais. De même, les adversaires de Paul sont nombreux. Ils multiplient les discours éloquents, ils font valoir les apparences plutôt que les vrais biens et ils en tirent un profit personnel. En face, Paul se présente en miroir et en image inversée. Il est seul, sans éloquence, soumis à la vérité plutôt qu'aux apparences et totalement désintéressé. Deuxième remarque, il se présente comme le négatif des mauvais maîtres qui entraînent la communauté vers l'abîme et la division. 2 Corinthiens 4,2 « Nous ne nous comportons pas avec artifice, panurgia, et ne falsifions pas la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, phanerosis tes aletheias, nous nous recommandons à la conscience de tout homme face à Dieu. » Or, bien sûr, l'expression panurgia figure déjà chez Platon, pour dénoncer la prétention à tout démontrer et à tout pouvoir faire par eux-mêmes. Les sophistes sont des panurges, panurgoï, et Rabelais s'en souvient précisément. Pourquoi panurge est-il celui qui entraîne les gens dans l'abîme? Parce que les gens suivent celui qui semble brillant et éloquent. Face à ses adversaires, au contraire, Paul se présente d'une manière quasiment phénoménologique, comme celui qui se borne à, je cite, la manifestation de la vérité. Donc les tentatives de persuasion rhétorique sont des présentations trompeuses, séduisantes, artificieuses. À la force persuasive de leur raisonnement, Paul n'oppose que la vérité qui est attestée en Dieu et dans la conscience de chacun. Troisième indice, Paul se vante paradoxalement d'être, je cite, 2 Corinthiens 11,6, incompétent en matière de discours. Idiotes to logo. Or, c'est précisément ce que disait Socrate face à Phèdre. Je serai, Phèdre 236d, je serai ridicule si je m'oppose à un grand artiste, moi qui suis incompétent. Bien sûr, il y a de l'ironie, hein, mais c'est la même position que Paul occupe. Quatrième remarque, il serait erroné d'imaginer que dans la culture grecque du 1er siècle, la philosophie était la discipline dominante. Ce qui existait par contre dans toutes les grandes villes, c'était des écoles de rhétorique. Elles appartenaient à ce que les historiens appellent la seconde sophistique. Et Philon d'Alexandrie nous donne de nombreux témoignages de l'opposition entre des philosophes qui s'appuient sur la raison et les sophistes qui sont capables de discourir sur tous les sujets, de s'affronter entre eux et qui sont avides de reconnaissance et d'argent. Bien entendu, il se range lui-même parmi les philosophes. Philon d'Alexandrie est un philosophe, à ses propres yeux. Nous pouvons donc conclure, la sagesse du monde, ce n'est pas seulement, ni même essentiellement, la philosophie. Identifier la critique de la sagesse avec le rejet de la philosophie, c'est croire que la philosophie est le centre du monde. Alors que la Sophia prend de multiples formes, on l'a dit, ça va de la musique à la rhétorique, en passant par la médecine. Donc les adversaires de Paul sont des juifs ou des païens convertis qui ont eu une certaine formation rhétorique et qui, précisément en raison de leur éloquence, divisent la communauté. On peut supposer que d'une certaine manière, ils appartiennent à la seconde sophistique. Donc ce que Paul attaque, c'est celui qui prétend posséder la Sophia sans la tenir de Dieu. Ce n'est précisément pas la modestie de celui qui dit seulement qu'il désire la sagesse, le philosophos. Comme Platon et Philon, Paul n'est pas un anti-philosophe, mais un anti-sophiste. En réalité, ce que Paul reproduit, c'est le geste même de la philosophie, le rejet de la sophistique. Pour toutes ces raisons, Paul n'est pas un anti-philosophe. Mais je n'irai pas jusqu'à soutenir le paradoxe que Paul est un philosophe. Justement, c'est pas ainsi que se pose l'alternative. Car c'est justement l'alternative entre philosophie et antiphilosophie qui ne tient pas. Il faut insister là-dessus. Ce que Paul critique, c'est une sagesse, celle qui vient du logos du monde, c'est-à-dire un logos qui se veut persuasif et sans Dieu. Pascal dit, ils veulent convaincre et non convertir. Nous sommes sur le plan de la sagesse et non celui de la philosophie. Et ce que Paul promeut, ce qui doit convertir, c'est une autre sagesse. J'en viens à mon deuxième et dernier exemple, l'origine du mal. Dans chaque chapitre, j'ai essayé de partir d'une représentation empruntée à la philosophie contemporaine. Donc le premier chapitre sur le rejet de la philosophie, je suis parti de Heidegger. Dans un autre chapitre, je suis parti de Freud et dans un autre de Nietzsche. Partons ici du diagnostic de Nietzsche. Pour Nietzsche, Paul a remplacé le message de Jésus par le christianisme parce qu'il a insisté sur la culpabilité de l'homme. Il l'a fait en inventant le concept de péché originel. Au lieu d'un évangile, Paul est l'inventeur d'un disangile. C'est-à-dire en grec, c'est au lieu d'une bonne nouvelle, évangile, il a annoncé une mauvaise nouvelle, un disangile. En effet, il a inventé le péché originel. Pourquoi ? Parce que lui-même souffrait d'être incapable d'accomplir la loi. Il a donc retourné contre l'humanité sa propre colère et il est devenu, je cite, « le plus grand de tous les apôtres de la vengeance ». L'Antéchrist, paragraphe 45. En effet, le péché originel est une manière de se venger de sa propre impuissance en l'inoculant à toute l'humanité. Mais du coup, l'abolition de la loi et la dépendance totale à l'égard de la grâce participent du même mouvement d'humiliation de l'homme et de vengeance. Au paragraphe 68 d'Aurore, Nietzsche en brosse un portrait au vitriol. Si l'on avait lu, réellement lu, les écrits de saint Paul, le christianisme aurait vite fait son temps. Tant les pages de ce Pascal juif, c'est intéressant cette relation à Pascal, les pages de ce Pascal juif mettent bien à nu les origines du christianisme. Il souffrait d'une idée fixe, ou plus précisément d'une question fixe, qu'en était-il de la loi juive et surtout de l'accomplissement de cette loi ? Pour Nietzsche, le propre d'un esprit noble, c'est de savoir exiger de soi-même ce qu'il y a de plus haut, la virtu au sens de Machiavel. Or, en bon pharisien, Paul voulait affirmer sa volonté de puissance en s'élevant au niveau de la loi, en accomplissant la loi. Mais puisqu'il ne parvenait pas à l'accomplir, il s'en est sorti en détruisant la loi. Je cite encore, c'est toujours le même paragraphe, Aurore, paragraphe 68, « Et voici qu'il éprouvait sur sa propre personne qu'il se trouvait lui-même incapable d'accomplir la loi. La loi était la croix sur laquelle il se sentait cloué, comme il la haïssait, comme il lui gardait rancune. Et à la fin, il fut illuminé par une vision, à lui le furieux zélateur de la loi, ce Jésus apparut sur une route déserte. Tout était d'un coup devenu clair dans sa tête. Voici l'issue. Voici la vengeance complète que je tiens, cette fois ou jamais, le destructeur de la loi. » Donc la destruction de la loi est une vengeance contre le judaïsme. Cette interprétation psychologique est remarquable à plusieurs égards. Tout d'abord, parce qu'elle est typiquement luthérienne. Nietzsche est fils et petit-fils de pasteur. En réalité, cette impuissance à faire le bien et la découverte de la fin de la loi et du règne de la grâce, c'est exactement ce qu'a vécu Luther. D'ailleurs, Nietzsche vend la mèche, car il ajoute juste après « Luther éprouva probablement des sentiments analogues lorsqu'il voulut devenir dans son cloître l'exemple accompli de l'idéal spirituel, et ce qui arriva à Luther, qui se mit un jour à haïr l'idéal spirituel, arriva aussi à saint Paul. Bon, » en réalité, bien sûr, c'est l'inverse. Ce n'est pas saint Paul qui ressemble à Luther, c'est Luther qui a servi pour Nietzsche à interpréter Paul. Mais son interprétation repose sur deux thèses. Premièrement, l'idée que la description faite par Paul de sa propre impuissance est autobiographique, ce dont Nietzsche ne doute pas. Deuxièmement, l'idée que le concept de péché originel, qui généralise et fonde cette impuissance dans toute l'humanité en général, est une doctrine authentiquement paulinienne. Or, j'ai montré, enfin c'est facile à montrer, c'est bien connu, positivement, que ces deux thèses sont des constructions augustiniennes. Alors, quand je dis des constructions augustiniennes, bien entendu, j'ai bien conscience du fait qu'il y a eu une évolution d'Augustin, mais enfin c'est la partie qui a influencé la période médiévale jusqu'à Luther. Et bien sûr, Luther est un très grand augustinien. C'est ici que se vérifie la nécessité d'une approche généalogique. Il faut comprendre comment s'est construite l'interprétation autobiographique de l'impuissance chez Paul pour traverser cette interprétation et pour rejoindre le Paul authentique. Revenons sur ces deux points. Premièrement, l'interprétation autobiographique de Romains 7 est-elle défendable? Devons-nous voir en Paul la conscience torturée de l'Occident? Tenons-nous-en au verset 15. « Je ne sais pas ce que j'accomplis, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » Une lecture naïve hors contexte peut donc en déduire que Paul parle de lui-même, puisque c'est à la première personne du singulier. Mais, première remarque, Paul est bien loin d'être une conscience torturée ailleurs. Par exemple, en Philippiens 1:20, « J'ai l'assurance et l'espérance que je ne serai confondu en rien. » En Philippiens 3:6, « Je suis sans reproche quant à la justice qui est conforme à la loi. » Et à chaque fois qu'il invoque sa conscience, c'est une bonne conscience. 1 Corinthiens 4:4, « Ma conscience ne me reproche rien. » Romains 9:1, « Ma conscience me rend témoignage. » On ne voit pas Paul accablé par le sentiment de sa propre impuissance. Dans ce contexte, il faut plutôt lire le texte de Romains 7 comme représentant la tragédie de l'homme incapable de faire le bien. Et bien sûr, il rappelle un phénomène tragique bien connu et sans issue depuis Euripide, la dissension intérieure. Et il montre que, évidemment, ça, c'est ce qui caractérise l'homme avant le baptême. D'où vient cette contradiction? Paul l'explique dans les premiers chapitres de l'Épître, au fond. Les païens et les judéens ont connu Dieu, les païens à partir de la création, les juifs, les judéens, à partir de sa loi. Mais les uns et les autres sont incapables d'accomplir sa justice, tous sont donc dans le conflit intérieur et tous sont coupables. Ils sont donc à égalité. L'intérêt, c'est de dire que le judéen et païen sont à égalité. La pointe du raisonnement n'est donc pas l'impuissance, mais l'échec des juifs, des judéens, à accomplir la loi de Dieu. Lorsque Paul dit « je », ce n'est pas un « je » autobiographique. C'est un texte qui appartient au genre littéraire de la diatribe. La diatribe, c'est une exhortation véhémente qui appelle à la conversion, et elle se caractérise par des images frappantes, par des dialogues avec un interlocuteur fictif, et par des passages brusques d'une personne à l'autre. Et ici, le jeu qui parle, c'est un jeu rhétorique, un jeu argumentatif dans lequel les destinataires de la lettre peuvent se glisser. Paul écrit « Moi, autrefois, quand j'étais sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a pris vie et moi, je suis mort. » Romains 7:9. Le « je » qui a vécu comme un païen sans la loi peut difficilement être l'individu Paul. C'est plutôt le converti qui décide de se soumettre à la loi et qui découvre qu'elle ne lui permet pas de bien agir, mais qu'elle l'accuse. Le « je » qui est mort n'est pas l'individu Paul, c'est le païen converti à qui il s'adresse. Enfin, du moins, ça, c'est ainsi que je l'interprétais jusqu'ici. Et si on comprend que Paul parle au nom de ces païens convertis à la foi nouvelle et qui voudraient absolument se conformer aux exigences de la loi, cette dissension intérieure devient lumineuse. Et Paul ne peut pas accepter cette attitude parce qu'elle irait contre toute sa mission d'apôtre. La plupart des pères de l'Église ont d'ailleurs bien compris le texte ainsi. Par exemple, Origène, qui dit « Il dit donc de lui-même, comme s'il parlait en leur nom, « Je suis charnel, vendu au péché. » Un peu plus loin, il montre que celui qui parle ainsi s'efforce pourtant de résister un peu au vice, à savoir sous l'instigation de la loi naturelle, mais qu'il est vaincu par les vices et écrasé malgré lui. Et un peu plus loin, dans tout ce passage, lorsque Paul dit « je », il joue le rôle, persona proponitur, dit le commentaire d'Origène, il joue le rôle de l'homme sous la loi, du juif connaissant le bien, mais esclave du péché. C'est saint Augustin, à partir d'un tournant de sa pensée, qui en a fait un texte autobiographique, je ne reviens pas sur ce qu'Isabelle a dit. D'ailleurs, Luther savait très bien qu'il y avait deux interprétations de ce texte. Il le dit dans le cours sur l'Épître aux Romains, que l'apôtre parle en son nom personnel, le bienheureux Augustin est le premier à l'affirmer abondamment et constamment dans son livre « Contre les Pélagiens ». En effet, pour Augustin, c'était un argument très fort contre Pélage. Cela permet d'affirmer que tout homme est soumis au péché et qu'il ne peut être sauvé que par la grâce. Luther s'en tient, bien sûr, à cette interprétation. J'ai donc montré que cette impuissance de la volonté avait une fonction persuasive et non autobiographique. Venons-en à l'autre moitié de l'hypothèse à laquelle Nietzsche fait aussi allusion, l'idée qu'il existerait chez Paul une doctrine du péché originel. Comme Isabelle en a parlé, je vais raccourcir un tout petit peu. Oui. La doctrine du péché originel comporte au fond deux aspects. Premièrement, il doit y avoir eu un premier péché, un commencement du mal, le péché d'Adam. Et deuxièmement, il doit valoir comme un péché héréditaire, donc être un principe d'explication universel. Il doit donc, étrangement, avoir été transmis aux hommes avant même qu'ils aient été libres de pécher à leur tour. C'est pourquoi l'homme naît soumis à la concupiscence. Mais chez Paul, nous ne retrouvons que le premier élément. Paul évoque bien la faute d'Adam. Celui-ci est bien le premier homme, et en cela, il est la figure inverse du dernier homme, le Messie qui devait venir. Mais pour lui, ce qui se transmet comme châtiment du premier péché, ce n'est pas le péché, c'est la mort. Romains 5, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi, la mort a pénétré dans tous les hommes. Je n'entre pas ici dans les difficultés qui tiennent à des problèmes de transmission du texte qui ont donné naissance à un texte tronqué et à partir duquel Augustin a cru pouvoir lire dans ce passage l'idée que en lui, dans le péché d'Adam, tout son péché. Donc l'idée que le péché d'Adam n'était pas simplement le premier péché, mais il était le péché originaire dans l'originel et donc originaire dans lequel tous ont péché. Mais précisément, comme l'a rappelé Isabelle, c'est un véritable contresens. Par conséquent, retrouver, en lisant de près saint Paul et en traversant toutes ces exégèses, toutes ces interprétations philosophiques qui ont souvent quelque chose de déformant, je pense qu'on peut parvenir à retrouver, grâce au texte de saint Paul, une introduction à l'essence du christianisme. Et permettez-moi, pour conclure, de vous citer quelques lignes de Michel Foucault qu'une personne, qui est d'ailleurs dans la salle, m'a transmise, auxquelles je n'avais pas pensé, qui ont été rédigées en mémoire de Maurice Clavel, mais qui me semblent très éclairantes dans le cas de Paul. De sa certitude, il avait fait une pure attente. Attendre, c'était sa manière à lui de recevoir tout ce que le temps pouvait lui apporter pour l'accueillir et le brûler à la fois. Alors après, il parle de Clavel. Ces hommes, des hommes comme Clavel, ont introduit dans le monde sans Orient où nous vivons la seule tension dont nous n'ayons pas ensuite à rire ou à rougir, celle qui rompt le fil du temps. Croire, pour lui, c'était une manière de secouer les évidences, d'ébranler le sol sur lequel nous marchons. Ce à quoi il avait affaire, c'était la liberté. Il l'avait accroché à l'éclair qui frappe, à la foudre de Dieu, à ce qui renverse dans l'homme, l'homme lui-même. Il la saisissait dans l'inévitable événement qui rompt tout et le tout. C'est en affrontant l'extrême et singulière volonté de Dieu qu'on est libre. Théologien abrupt, il faisait de la force invisible de la grâce le moment de la liberté. Je crois que ça s'applique parfaitement à saint Paul. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que peut-être Marc ou Isabelle, vous auriez une réaction, une remarque ? La parole est donc à vous.
J'ai pris bonne note des six remarques et de l'objection d'Isabelle sur la loi. Oui, effectivement, là, je fais amende honorable, j'ai dû me tromper. Cela dit, ça ne change rien structurellement au chapitre en question, puisque c'était un chapitre qui posait la question de l'universalité. Simplement, on ne peut pas l'accrocher à ce passage de Saint-Augustin, c'est clair.
On peut peut-être prendre... On va peut-être prendre... Qu'est-ce qu'on fait ? On prend deux, trois questions ?
Non. Voilà, ma réponse sera très brève. Non. Par lâcheté, c'est-à-dire que... Enfin, évidemment, vous me dites, j'ai fait une exception. J'ai fait une exception parce que j'ai commenté la seconde épître aux Thessaloniciens. Mais sinon, je me suis tenu au texte de Paul lui-même, tout simplement. Et... quand même... j'avais un peu travaillé, notamment le discours à Athènes, qui me semble quand même très différent de ce que pense Paul. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Enfin, voilà. Donc il y a une reconstruction des objectifs qui sont très spécifiques. Il y a un mouvement qui est commun, de même que dans Romains 1:20, il est dit que évidemment les païens ont eu la connaissance de Dieu. On a le même mouvement, évidemment, dans le discours sur l'Aréopage, mais avec de tout autres arguments.
Alors peut-être les chardes dans la chair.
Alors moi j'ai rien à dire sur les chardes dans la chair. Ça fait partie des choses mystérieuses que sur lesquelles on. C'est le problème de ces textes qui ne sont pas explicatifs, enfin, qui sont référencés à quelque chose d'autre que nous ne savons pas. Hein. Donc on ne sait pas à quoi ils faisaient allusion. Alors après on peut multiplier, peut-être que vous avez une thèse, une opinion, moi je n'en ai pas là-dessus. Hein. Beaucoup de personnes disent que c'est un problème de santé qui le handicapait, mais on n'en sait rien, hein. C'est une hypothèse. Enfin, vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus.
Il y a un bon statut de thèse française d'il y a une dizaine d'années, dont m'échappe, l'auteur était un prêtre bourguignon. Voilà, il faudrait que je... Une thèse française récente qui a quelques pages vraiment de bon état de la question, et lui penchait, avec des arguments intéressants basés sur la sémantique du passage, sur les adversaires de Paul, les adversaires chrétiens de Paul, dans la persécution qu'il subit dans l'Église. C'est une hypothèse qu'il défendait. Il est maintenant professeur d'université en Allemagne. Son nom m'échappe, mais...
Ça semble plus satisfaisant intellectuellement, en tout cas.
D'autres questions ?
On a... Pardon.
Non. On est là pour...
Je disais qu'il y a un cas un peu analogue, mais qui est vraiment pas tout à fait de saint Paul, mais c'est le catéchone de... La seconde épître aux Thessaloniciens. Les gens passent leur vie à se demander qui est le catéchone, est-ce que c'est l'empereur, est-ce que c'est je ne sais pas quoi. Bon bref, il y a plein d'hypothèses. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est de voir quelle est la fonction du catéchone dans l'économie de ce texte. Et peut-être que d'ailleurs l'auteur ne le savait pas. Enfin, je veux dire, ça veut simplement dire le principe qu'il retient. J'ai écrit à ce propos-là que c'est le même type, on fait le même type d'erreur que les gens qui essayent de savoir de quelle maladie est mort un personnage de quelle maladie meurt un personnage de Tolstoï. Voilà. Si Tolstoï ne le dit pas, personne ne peut le savoir. Si Paul ne nous le dit pas, nul ne peut le savoir. Voilà.
Ce qui n'empêche pas Augustin d'avoir des hypothèses sur la question. sur l'Esprit Saint, alors, il n'aurait pas pu être quand même dans un certain passage.
Bon, je fais amende honorable une deuxième fois. Ouais. Oui, je suis d'accord. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est une objection qui m'a déjà été faite. Peu importe. Oui, en un sens, parce qu'objectivement, oui, le côté, tout ce que j'ai appelé bouleversement, révolution, etc., ça vient de l'irruption soudaine, imprévisible et totale de l'esprit. Donc je suis totalement d'accord là-dessus. D'un autre côté, j'aurais pu quand même le mentionner un peu plus que je ne l'ai fait, mais d'un autre côté, ce que j'analysais, c'était la forme de vie. Dans la forme de vie, on ne voit pas l'esprit. L'esprit, on ne le voit pas. Il souffle où il veut. Oui, c'est vrai.
En termes de poids sémantique.
C'est vrai, peut-être. Écoutez, je suis très honoré de cette rencontre. Malheureusement, je n'ai pas lu le livre de François Julien, donc je ne peux pas vous répondre sur le fond, mais je suis heureux de voir que deux approches peuvent converger sur deux objets qui sont eux-mêmes convergents, au fond. Parce que si on lit Jean, lui aussi, c'est une manière de parler, de penser la réception du Christ dans une communauté. Et si on lit Paul, pareillement. Donc, c'est assez rassurant que deux lectures de ces deux textes convergents soient des lectures convergentes. Mais c'est en toute ignorance, parce que je n'ai pas lu le livre. Que ce soit une exégèse, oui, d'une certaine manière, parce que c'est un travail d'interprétation. C'est pas une exégèse, mais pas historico-critique, parce que je ne fais pas partie de cette élite de savants qui, comme je l'ai dit, sont capables d'écrire 10 articles sur le même verset. Il faut bien comprendre. Pensons à la phrase de René Char. Si tu détruis, que ce soit avec des outils nuptiaux. Donc, détruire, c'est aimer. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne tourne pas le dos à la tradition. J'ai lu de très près, avec passion, Nietzsche, Heidegger. Augustin est un de mes auteurs favoris. Mais en même temps, quand quelqu'un amicus Plato, magis amica veritas. Hein, Platon est un ami, mais la vérité est encore plus un ami. Donc, une amie. Donc là, voilà. Il faut utiliser, et moi je pense qu'il faut passer par la tradition, je ne lui tourne pas du tout le dos. Hein. Il faut passer par la tradition parce qu'en fait, sinon, c'est elle qui s'impose à nous. Notre seule une des libertés que nous avons, c'est précisément de regarder en face la tradition pour innover. Mais innover dans ce cas-ci, peut-être pas dans tous, mais dans ce cas-ci, ça signifie revenir au sens originaire et authentique de l'existence chrétienne à travers Saint Paul. Donc, il faut faire de l'exégèse, il faut lire la tradition, mais pour la dépasser, pas pour la dépasser vers un futur, d'une certaine manière, mais pour la dépasser vers son sens le plus profond, vers son cœur caché, qui est la pensée de Saint Paul, l'œuvre de Saint Paul. Oui, c'est, si vous voulez, mais j'ai essayé de dire que nos lectures naïves sont en fait faussement naïves. Le problème, il est là. C'est quand on lit le texte de Saint Paul où il dit « Je suis impuissant » et on croit que ça veut dire, naïvement, qu'il parle de lui-même. Alors que on s'aperçoit que c'est une interprétation qui a été construite et qui s'est imposée à nous. On croit que Saint Paul est le penseur du péché originel, alors que, en réalité, quand on regarde de près le texte, c'est pas ça qu'il dit. Vous voyez ? C'est ça que je veux faire. Voilà. Donc, c'est pas simplement de l'exégèse non plus.
Alors on peut dire qu'avec toute la volonté de revenir au texte, ça se fait dans une tradition très précise. Alors moi je lis ce livre comme complètement situé dans la lecture francophone pauliniennes. C'est pour ça que j'ai repéré les analogies avec Jean. Et qu'effectivement, à la fois sur 2 Thessaloniciens et sur Romains 7, si nous allions en Angleterre, on n'aurait pas exactement le même paysage. Et donc, là aussi, la lecture, disons, rhétorique, hein, qui fait de la prosopopée de Romains 7 l'axe de lecture du passage, il y a des résistances. Il y a des résistances aussi, alors, plutôt chez, effectivement, des exégètes terriens très classiques, évangéliques très classiques, pour qui, au fond, céder sur ce point serait céder sur le fond de la réforme. Quand il y a eu l'accord d'Augsbourg en 1999 sur la justification, 40% des professeurs luthériens en Allemagne ont refusé de signer, dont Eberhard Jüngel, en disant « Nous sommes d'accord sur l'essentiel de l'interprétation de la justification par la foi avec les catholiques, pourquoi être protestant ?» Si au fond, si, parce que eux, ils ont un problème absolument dramatique, les luthériens. Luther a radicalement tort. Quand même. Bah, comment on reste luthérien ? C'est quand même un peu un problème.
Il nous reste peut-être...
Mais comme Augustin a aussi radicalement tort, on est match nul.
Mais là, on sauve Augustin grâce à l'Augustin d'avant 418, donc...
Ça va mal finir. Peut-être une minute pour une dernière question ? Sinon, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci infiniment, Olivier. Merci, Marc. Merci, Isabelle. Merci à tous.